Ce soir, un des premiers sujets qui me paraissait important de traiter, c'est le sujet de l'angoisse. Je l'ai appelé l'angoisse et le désert, le temps d'angoisse et le temps de désert. L'angoisse et le désert, on trouve dans les textes saints qui traitent du temps eschatologique, c'est-à-dire du temps où tout s'accélère. On trouve donc des évocations d'un temps d'angoisse qui doit venir. Donc là, je suis dans l'introduction. Dans saint Matthieu, il est dit... Il y aura alors une grande détresse, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde, et jusqu'à maintenant, et telle qu'il n'y en aura jamais plus. Un temps de détresse. Dans saint Luc, il est dit, il y aura une grande misère dans le pays, et une grande colère contre ce peuple. Dans saint Luc, il y aura des signes dans le soleil, la lune, les étoiles, sur la terre. Les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le fracas de la mer et son agitation. Tandis que les âmes défailliront de frayeur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, et les puissances des cieux seront ébranlées. Dans Daniel, il est dit, en ce temps-là se dressera Michel le grand prince, lui qui se tient auprès des fils de ton peuple, ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'en est pas advenu depuis qu'il existe une nation, jusqu'à ce temps-là. Voilà. Et j'en ai cité uniquement certains. Voilà, donc ça c'est, il y aura un temps d'angoisse. Et on trouve un deuxième élément dans les textes qui traitent de l'eschatologie, c'est-à-dire de cette accélération du temps. Dans saint Matthieu, il y a par exemple, « Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes. » Donc on a cette idée d'une fuite. Dans l'Apocalypse, il est dit, « Alors la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a fait préparer une place, pour qu'elle y soit nourrie pendant... 1260 jours. Donc la femme avec sa descendance s'enfuit dans un désert pour y être nourrie pendant ce temps de 1260 jours. 1260, au niveau de l'étude de la symbolique des chiffres, ça correspond au temps de l'eschatologie, au temps de l'épreuve. On va trouver le chiffre 10 dans la Bible qui veut dire le temps de l'épreuve. Par exemple, on a les 10 plaies d'Égypte. Ce sont 10 événements qui vont nous montrer ce qu'on peut parcourir à travers une épreuve. Donc, il y a comme deux territoires, comme si c'était des territoires qui se disputaient notre cœur, pour venir s'établir en nous. Il y a ce territoire de l'angoisse, et ce lieu du désert, qui nous laisse une paix profonde. Voilà, l'angoisse et la paix. C'est un combat qui se joue dans ces temps eschatologiques. Donc, on va parler dans une première partie du temps d'angoisse, avec pourquoi le temps d'angoisse, quelles sont les limites de l'angoisse, comment Dieu a, je dirais, déploie cette angoisse dans le temps, ce temps d'angoisse dans le temps. Ensuite, on va parler un peu plus longuement de pourquoi et comment se met en place le temps d'angoisse. On dira donc qu'il y a toujours le peuple de Dieu qui se refroidit dans un premier temps. Ensuite, il y a des guerres et des rumeurs de guerre qui s'installent, et une angoisse qui se déploie dans le temps, et qui vont purifier les gens de bonne volonté et endurcir ceux qui ne veulent pas de Dieu. On parlera de l'entrée des Hébreux dans le lieu de la paix, c'est-à-dire que donc dans ces deux grandes parties, ça va être les 10 plaies d'Égypte, les passages du livre de l'Exode qui vont être notre fil conducteur. Et puis, on parlera des mécanismes de l'angoisse, au niveau, je dirais, de ce que peut dire la science et la psychologie, très rapidement, parce que c'est pas mon domaine, je l'avoue. Et puis, dans un deuxième temps, au niveau de ce qu'en dit la Bible, et comment on vit avec, enfin, à quoi sert l'angoisse, quelle est la vertu, est-ce que ça a des vertus, qu'il y ait de l'angoisse aujourd'hui, et comment on lutte contre l'angoisse. Donc je commence la première partie, le temps d'angoisse. Question, pourquoi y a-t-il un temps d'angoisse? La Bible, donc je vois trois raisons en fait. La première, je dirais que le Seigneur revient. C'est-à-dire que les théophanies, les manifestations de Dieu dans la parole de Dieu, sont liées à un temps préalable qui est un temps où on trouve de l'angoisse. Je renvoie par exemple à ce qui advient au Sinaï et à tous les passages bibliques qui évoquent le jour du Seigneur. Le jour de sombres nuées, jour de tempêtes, de grands fracas de la mer, jour avec des tremblements de terre, jour où les montagnes dansent de joie. Voilà, on dira un mot sur ce signe-là aussi. Donc le Seigneur revient. Deuxièmement, pourquoi ce temps d'angoisse ? Pour punir les méchants. Par exemple, on trouve ce passage de Isaïe 13, qui, je trouve, est assez représentatif en lien avec les théophanies. Je punirai le monde pour sa méchanceté, les impies pour leurs crimes, je mettrai fin à l'orgueil des insolents, je ferai tomber l'arrogance des tyrans. Et un peu plus loin, en effet, j'ébranlerai les cieux et la terre tremblera sur ses bases, sous la fureur du Seigneur le Tout-Puissant, le jour de son ardente colère. Punir les méchants veut donc dire les secouer un bon coup, pour que tous ceux d'entre eux qui le peuvent encore changent d'avis. Il semble que la manière douce n'ait pas marché, puisqu'il y a eu un temps de paix préalable, et ces gens n'ont pas voulu se tourner vers Dieu. Ils vont avoir besoin d'un tremblement de terre, si j'ose dire, de choses un peu plus cataclysmiques, pour éventuellement changer d'avis et abandonner leur méchanceté, leur péché. Et malheureusement, ce temps d'angoisse va aussi endurcir ceux qui ne sont pas disposés à changer, à se convertir. Mais je dirais qu'avant même d'un souci de justice de punir les méchants, dans ce petit 2, pourquoi ce temps d'angoisse, je pense que c'est d'abord le fait que Dieu ne puisse plus supporter lorsque des crimes inhumains sont commis. Parce que c'est d'abord, je pense, la miséricorde de Dieu, son attribut de miséricorde qui s'émeut, ses entrailles de père, plein de miséricorde, parce qu'il voit des avortements, parce qu'il voit des gens qui pleurent sous l'injustice, parce qu'il voit des enfants à qui on n'apprend plus à lever les yeux vers le ciel en disant « tu n'es pas seul et à chaque moment tu peux demander à Dieu de venir en toi ». On a un certain nombre de choses qui peuvent nous effrayer aujourd'hui. On peut imaginer que Dieu soit bien plus effrayé que nous du mal qui se commet dans le monde. Et si le mal est une raison pour beaucoup d'athées pour dire « je suis sûr que Dieu n'existe pas parce qu'il y a le mal », pour nous croyants, c'est plutôt une raison de se dire « le Seigneur, à un moment, va intervenir. Il punira les méchants, certes, mais c'est d'abord parce qu'il veut mettre fin à un certain nombre de choses malfaisantes qui se sont commises dans l'humanité. Le Seigneur revient, il faut punir les méchants et effectivement venir sauver ceux qui sont victimes de persécutions. Et troisièmement, pour que le peuple de Dieu, que Dieu veut épouser, soit purifié. Parce que le peuple de Dieu n'est pas encore pur, n'est pas encore apte à épouser son Seigneur. Et par ce temps d'angoisse, cette épouse qui est Israël et l'Église depuis le Christ, son épouse est contrainte de quitter ses habits sales et de revêtir ce que Dieu lui donne pour être à nouveau séduisante pour Dieu. Voilà, c'est plaisant en fait de se dire Dieu vient m'épouser en tant que membre de son corps. Dieu vient me laver, Dieu vient me m'ôter des habits qui ne sont pas propres en fait. C'est ce qu'on appelle dans l'Apocalypse la Jérusalem céleste qui descend du ciel, du moins ceux qui sont en union avec Dieu, parce que c'est vrai qu'on peut toujours se demander, alors est-ce que c'est que les chrétiens, est-ce que c'est que les catholiques, est-ce que c'est... Et moi, il me semble que l'Église, dans le sens peuple de Dieu, veut dire gens qui sont profondément unis à lui. Et effectivement, il semble logique qu'une personne baptisé qui vit les sacrements et plus de chance recevant une grande force à travers toutes ces médiations d'être proche de Dieu que quelqu'un qui n'a pas ça. Mais je pense pour ma part que l'Église est plus large que ce qu'on imagine et que dans l'Église il y a aussi beaucoup de gens qui ne font pas plus partie de l'Église parce qu'ils se sont séparés de cette communion qui est nécessaire. Comme les disciples dans la barque, on voit les disciples, je pense que c'est une belle image par rapport au temps d'angoisse. D'un côté, ils sont dans la barque, donc symboliquement, on va dire, s'ils étaient juifs, ils seraient circoncis, s'ils étaient chrétiens, ils seraient baptisés, donc ils auraient tout fait, la communion, etc. Bon. Mais le fait de douter de Jésus, puisque Jésus a l'air de dormir... c'est déjà quelque chose qui montre qu'ils n'ont pas une communion qui est parfaite. Ils ont quelque chose qui fait qu'ils ne sont pas pleinement dans l'Église, enfin, où ils y sont d'une manière imparfaite, en fait. Voilà. Parce que l'angoisse nous fait douter. Le Seigneur revient, il faut punir les méchants et mettre fin aux injustices, et il faut que Dieu moissonne, je dirais, ce qu'il a semé, c'est-à-dire des personnes qui sont vivantes et qui vont quitter leurs abyssales pour avoir une communion avec lui, une extase avec lui, une étreinte avec lui. Donc, toujours dans cette première partie, petit 2, quelles sont les bornes du temps d'angoisse que Dieu a fixé? Alors, premièrement, je pense que ce temps d'angoisse doit être suffisamment long pour opérer un tri dans ceux qui sont loin de Dieu. C'est-à-dire que, comme on va placer par exemple, des amandes sur un plateau dans un four, qui vont être soumises à la chaleur du four, et vont se torréfier et vont se bonifier. Eh bien, peut-être d'ailleurs que ça va faire éclater certaines choses, ça va libérer certains sucs qui vont rendre ces fruits encore plus savoureux, encore plus nutritifs. Eh bien, le temps d'angoisse, il y a besoin d'un certain temps, une certaine durée. On aurait envie parfois que le Seigneur revienne, on aurait envie que l'avertissement s'opère tout de suite, pour ceux qui lisent un peu les prophéties. Mais le Seigneur a voulu prendre un temps suffisant pour qu'il y ait un maximum, il y a une rentabilité très forte, si j'ose dire, de personnes sauvées. Voilà, qu'il y ait un maximum de gens qui soient cueillis au meilleur moment, au top de leur forme spirituelle. La deuxième borne de l'angoisse, ce temps-là ne doit pas être trop long, parce que sinon ça ferait tomber les élus dans la désespérance, et ils finiraient par penser que Dieu les a abandonnés. C'est vrai que quand on est dans les ténèbres, dans les grandes eaux, on se sent recouvert par la mer. Dans saint Matthieu, il est dit « Et si ces jours-là n'étaient abrégés, personne n'aurait la vie sauve, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. » On trouve par exemple au temps du Christ, qui est venu dans l'humilité, on trouve le fait que certains mystiques disent que ce serait grâce à la prière de la Vierge Marie qu'il aurait mis un peu moins de 3 jours à ressusciter. En fait, elle aurait réussi, à cause donc des élus, à cause de cette femme qui était une priante extraordinaire, la Vierge Marie, elle aurait réussi à faire que son fils ressuscite un peu plus vite et se dépêche de visiter les limbes, etc. Et dise, bon, il y a ma mère qui m'attend et crie tellement fort parce que sa prière est, performative, qu'il faut que je remonte vite. Voilà, c'est la prière fervente. Et une autre remarque sur ces temps d'angoisse, c'est que ça commence toujours par des rumeurs de guerre. On va dire ce que c'est. C'est saint Matthieu. Dans saint Matthieu, il est dit « Vous allez entendre parler de guerre, de rumeurs de guerre. Attention, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. » Donc la rumeur de guerre serait plutôt un prélude, ça serait comme un signal du début d'un temps d'angoisse, en fait. Voilà. Donc j'arrive à la deuxième grande partie. Pourquoi et comment se met en place le temps d'angoisse? Petit 1. Je pense qu'il y a d'abord un refroidissement du peuple de Dieu. Donc dans cette partie, je vais plutôt commenter les plaies d'Égypte. C'est un passage que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez similaire à ce qu'on peut lire, à ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Et puis il y a beaucoup de similitudes avec l'Apocalypse, donc c'est des textes qui se répondent. Comment sait-on, au moment des plaies d'Égypte, que avant ces plaies-là, et avant la persécution de Pharaon, il y avait eu un refroidissement du peuple de Dieu? En fait, à la sortie d'Égypte, à la première épreuve, le livre des Nombres nous raconte que le peuple exprime ses regrets. Ils disent « Nous nous rappelons que nous mangions pour rien en Égypte les concombres, les pastèques, les poireaux, les oignons, l'ail, tandis que maintenant notre vie s'étiole. Plus rien de tout cela, nous ne voyons plus que la manne. » Alors, je trouve ça drôle parce qu'ils disent « notre vie s'étiole ». C'est-à-dire que c'est comme si on disait « notre vie n'a plus de sens » parce qu'il n'y a plus tous les mets savoureux qu'il y avait avant. Il y a un côté très un peu hédoniste et c'est drôle. Et en fait, dans la parole de Dieu, ce qu'on va trouver, c'est que c'est toujours le peuple de Dieu qui se détourne de sa mission. Et c'est pour ça que l'ensemble du peuple de Dieu, plus les païens, se retrouvent à subir des épreuves comme des guerres ou des pestes ou des famines, en fait. Parce que le peuple de Dieu, normalement, il a la présence de Dieu au milieu de lui, et cette présence apporte une protection intérieure, c'est comme une ferveur intérieure, un lien entre les hommes, et apporte aussi une barrière qui protège l'ensemble de la nation. par exemple des chrétiens dans une entreprise, qui vont protéger l'entreprise par leur présence. C'est à la fois la présence et la barrière de l'Esprit Saint qui est autour d'une entité, d'un pays. Donc, ces chrétiens, ou ces membres du peuple de Dieu, là on va plutôt parler d'Hébreux dans le livre de l'Exode, ils sont le sel de la terre, normalement. Et leur vocation, même s'ils sont en petit nombre, c'est de saler toute la terre. Parce que, une fois que la terre est savoureuse, c'est comme si le Seigneur pouvait se nourrir de toutes ces âmes qui montent vers lui, parce qu'elles ont été salées au contact de gens qui sont fervents. Donc à l'inverse, effectivement, dans des temps comme celui de l'Exode, on peut imaginer que le peuple s'était adonné à un peu trop, à la bonne chair, à certaines habitudes qui n'étaient pas bonnes. Et la religion du soleil en Égypte, ça va être le cosmos, ça va être un émerveillement devant le cosmos et un oubli que c'est d'abord Dieu qui a créé le soleil, la lune, etc. Et on finit par adorer les créatures au lieu du créateur. Petit 2, la rumeur de guerre et la montée de l'angoisse. L'exemple du peuple hébreu en Égypte, du temps de Moïse. Dans le livre de l'Exode, je me mets au chapitre 1. Alors un nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph, se leva sur l'Égypte, et il dit à son peuple, « Voici que le peuple des fils d'Israël est trop nombreux et trop puissant pour nous. Prenons donc de sages mesures contre lui, pour qu'il cesse de se multiplier. En cas de guerre, il se joindrait lui aussi à nos ennemis. Il se battrait contre nous. Il sortirait du pays. » On lui imposa donc des chefs de corvée pour le réduire par des travaux forcés, et il bâtit pour le pharaon des villes entrepôts, Pithom et Ramsès. Mais plus on voulait le réduire, plus il se multipliait et plus il éclatait. On vivait dans la hantise des fils d'Israël. Alors les Égyptiens asservirent les fils d'Israël avec brutalité et leur rendirent la vie amère par une dure servitude, mortier, briques, tous travaux des champs, bref, toutes les servitudes qu'ils leur imposèrent avec brutalité. Donc le début du texte, c'est le roi, le pharaon d'Égypte, qui a une angoisse. Il dit, voici que le peuple des fils d'Israël est trop nombreux et trop puissant pour nous. En cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis. Il semble que Pharaon occulte l'aide qu'avait apporté le patriarche Joseph, puisque il avait quand même plus ou moins sauvé le pays de la famine. Il avait eu cette interprétation du songe avec les vaches maigres et les vaches grasses. Il avait dit à Pharaon, il va falloir administrer ton royaume d'une certaine manière en récupérant tout le surplus de blé pendant 7 ans et ensuite en vendant le blé pendant 7 ans. Et donc il avait considérablement enrichi l'Égypte. L'Égypte est devenue très riche parce que les nations environnantes sont venues acheter du blé pendant des années, pendant les 7 années de famine. Pharaon accrédite l'hypothèse que le peuple d'Israël est digne de méfiance, voire même dangereux, ce qui s'appelle une rumeur de guerre au sens biblique. Au lieu de dire « ce peuple a été un allié pour nous », peut-être entretenons une relation renforcée avec lui pour voir s'il y aurait un danger à continuer à collaborer avec ce peuple. Lui, il décrète « ce peuple est dangereux ». Il y a quelque chose qui... J'avais parlé de la persécution dans une autre conférence, qui est sur le site justement, et j'étais arrivé, moi, en étudiant la persécution, à la conclusion que la persécution, elle vient contre des personnes qui incarnent la vérité. Quelqu'un qui essaie de vivre de manière juste, même s'il est pas, il peut être un peu tiède, va déclencher des persécutions parce que les égarements des gens qui l'entourent vont être mis en relief par la personne qui vit de manière un peu plus sobrement, qui va moins critiquer, moins dire de choses obscènes, qui va pas boire excessivement, etc. Donc le pharaon, il s'en prend au peuple de Dieu également parce que il n'a plus cette protection assurée par le peuple d'Israël au niveau de la prière, de la sainteté, et il ne va plus être en mesure de résister à la tentation de respecter le bien, le vrai, le beau, la vérité incarnée dans ce peuple, qui est un peuple saint, un peuple consacré au Seigneur. Donc Pharaon va accréditer cette hypothèse que le peuple est digne de méfiance. Et il va créer un sujet fictif, ou même très exagéré, un mensonge, et donc quelque chose d'anxiogène. Il va proclamer quelque chose en haut lieu, si j'ose dire, et dans tout son royaume, ce qui va se répéter, c'est quelque chose qui tient du mensonge, ou au moins qui est exagéré, à défaut de dire que c'est un mensonge, en disant c'est un risque qu'il y ait ces personnes-là au milieu de nous. Donc je renvoie à un autre passage qu'on trouve dans le deuxième livre des rois. C'est ce que dit le général assyrien Sennacherib quand il est envoyé pour encercler Jérusalem avec ses armées. Il déploie tous ses soldats, donc c'est le siège, et il va voir Ézéchias, le roi, avec ses émissaires, et il va employer un langage trompeur qui fait dresser les cheveux sur la tête aux habitants de Jérusalem, et Ézéchias, bien sûr. Ça agit un peu comme un rugissement, ça glace d'effroi, en fait. C'est-à-dire que c'est une forme de cri de colère déguisé qui va provoquer une forte angoisse. Pour moi, ça a été une aide de relire ces passages-là dans 2 Rois 18 pour voir la manière dont il va dire quelque chose qui a l'air vrai, et puis petit à petit, il y a des contradictions qui apparaissent dans son argumentaire qui montrent que quand il dit « Votre Dieu est le vrai Dieu », il n'y croit pas vraiment parce qu'il se permet de chosifier Dieu dans un deuxième temps. Vous voyez, il y a quelque chose de complètement fourbe et ça fait naître une angoisse, en fait. Vous voyez. Donc Pharaon, roi d'Égypte, sous prétexte d'un mensonge, déclare « Prenons donc de sages mesures contre lui ». Il va utiliser en fait un slogan, un langage rhétorique, aussi dit « Mes mesures sont sages, deux points ». Et il va déclencher un certain nombre de choses. Donc la rumeur de guerre, en fait, s'accompagne d'éléments théâtraux. Il va faire des choses d'une manière extrêmement théâtrale. Donc je vais prendre un exemple pour... parce que je pense que c'est un texte aussi qu'on lit dans la liturgie. C'est le roi Achab en 1 Roi 21 qui lorgne sur la vigne de Naboth, quelqu'un qui est juste dans le peuple d'Israël, et qui lui dit « Ma vigne, elle appartient à ma famille, je ne peux pas te la céder au roi. » Et sa femme, Jézabel, va lui dire « ben, moi, je m'en occupe, donne-moi ton sceau et moi, je vais faire des choses. » Elle envoie des lettres au nom de son mari, le roi. Et donc, sous l'impulsion de Jézabel, le roi fait proclamer un jeûne. Donc, il demande à tout le monde « Il faut jeûner maintenant. Vous ne mangez plus, vous revêtez le sac, vous mettez de la cendre sur la tête. » Et ensuite, ils font une accusation publique de Naboth, ils le convoquent aux portes de la ville et ils lui disent « Voilà ce que tu as fait, ça. » Pour que tout le monde connaisse que Naboth est quelqu'un de corrompu, alors que c'était quelqu'un qui était connu comme juste par tout le monde. C'était un ancien, il n'avait pas de problème de réputation particulière, il essayait d'être fidèle à son... C'est ce que raconte le texte, d'être fidèle à sa famille, en tout cas. Et ensuite, Naboth se fait lapider. Voilà. Le jeûne et l'accusation publique qui sont normalement utilisés pour des situations graves vont être comme un trépi ou un voile qui vont être utilisés pour masquer la haine et le mépris de Achab et de Jézabel qui est encore plus haineuse que lui, semble-t-il. Si vous voulez, ce déploiement de surenchères d'éléments théâtraux, c'est typique de la rumeur de guerre. Donc je reviens à Pharaon, qui fait de même. Il va être très démonstratif, il va changer l'équilibre de la société égyptienne, en obligeant les gens à faire des travaux difficiles ou moins difficiles en fonction de s'ils sont hébreux ou égyptiens. Il va dire, vous n'avez plus le choix, maintenant les hébreux c'est les tâches ingrates, les égyptiens c'est le reste. Et il leur fait construire les deux villes entrepôts. Donc à ce stade, on peut voir peut-être 6 conséquences de la rumeur de guerre. Premièrement, première conséquence, d'après la tradition juive, Pitom et Ramsès, les deux entrepôts. Pitom veut dire cité de la justice, et Ramsès, enfant de Ré. Elles sont bâties sur le sang, ces villes, finalement. Puisque, en fait, cité de la justice, ça veut dire je vous fais construire quelque chose qui est profondément bon et juste. Et enfant de Ré, ça veut dire chose qu'on construit et qu'on a obtenue grâce à ce Dieu qui est le vrai Dieu, c'est le Dieu du soleil. Il existe des traditions juives qui disent ces villes entrepôts, on dit miskenot, on les appelle comme ça parce qu'elles ont mis en danger, miskenot en hébreu, mis en danger leurs propriétaires, mais aussi parce qu'elles appauvrissaient, mas maskenot, ceux qui les construisaient. En fait, dans les commentaires juifs, ils retournent le mot en le déclinant un petit peu différemment, et ils disent ville entrepôt, c'est la même chose, c'est la même idée que mettre en danger et appauvrir. C'est-à-dire qu'on fait tourner la société de travers en faisant faire des choses à la société qui sont à côté de la vraie justice, quoi, qui sont à côté de la vérité. Une œuvre injuste qui va troubler peu à peu tous ceux qui essaient de faire leur travail en étant juste, chez les Hébreux et chez les Égyptiens, en fait. Ça va leur apporter un trouble. Donc ça, c'est la première chose, la première conséquence de la rumeur de guerre. Une deuxième conséquence, c'est un rabbin, un autre commentaire, qui va commenter ce verset, qui dit « Les entrepôts Pitom et Ramsès désignent une même réalité. Pitom, c'est son vrai nom, mais elle était appelée Ramsès parce que, lors de sa construction, chaque portion s'est écrasée. » Et il se trouve que l'écrasement dans la Bible va désigner le fait d'être quand on est ralenti. C'est-à-dire, je vais courir pour faire quelque chose en utilisant des moyens qui sont mauvais. Par exemple, en me disant, je vais faire pression sur une personne de manière anormale. Eh bien, il va m'arriver des choses qui vont me presser le pied. C'est comme si mon chemin se refermait. C'est ce qu'on trouve dans la Bible, en fait, cette idée de que Dieu va nous manifester par des circonstances qui vont être contre nous et qui vont nous ralentir. Et donc, cette œuvre-là va être une œuvre bizarrement difficile à construire, dont chaque mouvement va être comme un écrasement, et on va se dire, ah, mais c'est curieux, parce que d'habitude, dans mon travail, les choses sont faciles, et là, je sens qu'il y a une lourdeur, en fait. Troisième conséquence, un autre rabbin dit que le vrai nom de cet entrepôt était plutôt Ramsès, mais qu'elle fut appelée Pitom parce que la bouche de l'abîme l'a engloutie en premier. Pitom, c'est comme ça qu'on peut le traduire. Bouche de l'abîme, moi ça me fait penser au puits de l'abîme de l'Apocalypse. Quand on fait le mal et qu'on fait des choses mauvaises, ça engendre une accélération des fléaux qui frappe l'humanité. C'est comme si on ouvrait une porte de l'enfer. Alors qu'un juste qui prie va ouvrir une brèche dans le ciel et faire pleuvoir les grâces. En fait, il y a deux mouvements antinomiques. Et donc le but pour les justes, c'est de demander pardon au Seigneur pour que les bouches de l'enfer se referment, et de dire « s'il te plaît Seigneur » pour que les écluses du ciel s'ouvrent. Voilà, bouche de l'enfer. Quatrième conséquence, ça va provoquer une angoisse pour les Hébreux qui vont être persécutés. Forcément, c'est très angoissant d'être l'ennemi numéro un du jour au lendemain. Cinquième raison, ça provoque une angoisse pour les Égyptiens qu'on rend complice de ce régime de persécution. C'est-à-dire qu'on fait violence à la conscience des Égyptiens, qui vont se retrouver obligés d'arrêter leur travail si jamais c'était eux, par exemple, qui faisaient certains travaux qu'on juge accablants, d'un coup on déclare accablants, et on va dire, bah maintenant c'est toi, parce que ce travail c'est un travail qui est un moindre travail. Je vais m'approprier des travaux estimés mieux, estimés plus sur le dessus de la pile, si j'ose dire. Donc il y a une violence, ça fait comme un remaniement, je dirais, artificiel, qui va obliger des gens à exercer un autre métier qu'ils n'auraient pas forcément fait, et qui n'est pas plus bête que le métier qu'ils faisaient avant. Ou le métier qu'ils faisaient avant n'était pas plus bête, mais c'est juste qu'aujourd'hui on considère que c'est les Hébreux qui sont censés le faire. Sixièmement, c'est le début de la danse des montagnes. Ça, je pense que c'est un signe des temps. La danse des montagnes, il faudra en parler plus longuement, mais ça va être le fait que les grandes références vont être changeantes. Et on n'est pas habitué à ça. Ça va être, par exemple, des lois qui vont changer sans arrêt. Alors qu'on est habitué à ce qu'il y ait une certaine stabilité dans les lois. Et ces lois vont se mettre d'un coup, on va changer, on va dire « Ah ben maintenant c'est comme ça, et puis maintenant c'est comme ça. » Et on le voit avec les phases que parcourt Pharaon. Alors, entre parenthèses, je ne vais pas parler du Covid pendant toute la conférence, parce que je pense que c'est assez explicite. On arrive nous-mêmes à faire des liens, et puis parce que je trouve ça intéressant de parler de la Bible avant tout. Je ferai quelques liens quand même, mais voilà, ça, je trouve qu'on parle beaucoup déjà de ces sujets-là, donc ça vaut le coup de parler du projet de Dieu, et pour mieux comprendre les sujets d'aujourd'hui, bien sûr. Voilà, donc, les lois changeantes. Et un deuxième élément qui fait danser les montagnes, qui fait que les montagnes éclatent de joie dans la perspective que le Seigneur revienne, ce sont les plaies envoyées par le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur va lui-même venir, et en avant de lui, comme un roi, il va y avoir des messagers qui vont dire « Le roi arrive, préparez-vous !» Il va y avoir des sonneurs de trompettes. Il va y avoir des personnes qui vont jouer de la musique. Vous voyez, un grand roi, il a un grand cortège. Et pour moi, toutes ces plaies, ce qu'on appelle des plaies, mais ces cataclysmes, ces bouleversements, ça va être comme le prélude du roi qui revient. et ça va faire danser les montagnes. C'est-à-dire que les grands fondements qu'on connaît, les choses sur lesquelles d'habitude on s'appuie, par exemple, je vais me lever à telle heure le matin, par exemple, les rapports humains, c'est je vais serrer la main à quelqu'un ou faire la bise. Par exemple, dans mon travail, je vais aller à mon bureau. Par exemple, lors des rassemblements, lors des fêtes, on va se réunir en famille. C'est ces éléments-là qui avaient l'air immuables et auxquels peut-être que je m'accroche parce que ça fait partie des choses bonnes que le Seigneur m'a données. Eh bien, d'un coup, ces choses-là vont avoir la capacité de s'éclipser et de revenir, et de s'éclipser et de revenir. Et il y a un côté très anxiogène, finalement. On est habitué à quelque chose, on est un peu vieux, finalement. Mais même sans être vieux, c'est normal humainement de s'attacher à, je dirais, à un déroulement dans la journée. Quand on signe un contrat de travail aussi, c'est normal d'avoir des attentes en fonction du travail pour lequel on avait souscrit au départ. Cette danse des montagnes, moi je le vois comme une obligation à revenir au présent et à retrouver le projet que Dieu avait pour nous, de nous accrocher de toutes nos forces à ce qui fait la joie du présent. Parce que le caractère anxiogène de ces périodes d'eschatologie, c'est aussi de vouloir trop anticiper des choses qui deviennent impossibles à voir, parce qu'en montagne, on ne voit pas la route au loin, quoi. Il n'y a que dans la plaine qu'on voit très loin. Eh bien, la plaine, ça va être plutôt le temps de paix. Les montagnes, ça va être le temps où les choses évoluent sans arrêt. Voilà les six raisons qui m'apparaissait dans ce début de texte, quand on voit que le pharaon commence déjà à faire des changements et à proclamer des choses. J'avance. Le roi d'Égypte dit aux sages-femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Sifra et l'autre Poua, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, regardez le sexe de l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, qu'elle vive. » Trop facile. Vous avez été sage-femme depuis des années, vous connaissez par cœur votre métier, il y a juste un petit changement, c'est qu'il y a un enfant sur deux, il faudra le tuer. Mais bon, sinon, ça va être comme d'habitude. C'est la promulgation d'une loi liberticide, donc ça va forcément heurter la conscience des sages-femmes, hein, et de tous ceux qui, peu ou prou, vont être au courant de la situation, parce qu'on se doute que ce genre de choses, ça se cache pas. Ça fait certainement monter d'un cran l'angoisse dans le peuple, de chez les Hébreux et chez les Égyptiens. Et puis, est-ce que les sages-femmes, c'est pas des personnes qui ont donné leur vie, toute leur vie même, pour transmettre la vie? C'est-à-dire faire naître des enfants et soigner les mamans afin d'éviter qu'elles meurent en couche. Parce que c'est quand même des personnes qui sont des pointures pour connaître toutes les situations possibles et imaginables pour éviter qu'une maman ne trépasse en couche. Et du jour au lendemain, on leur demande de renier leur vocation, ce qui fait qu'elles exercent comme ça. Et on leur dit, vous tuez les garçons comme si c'était une simple formalité. Un scandale plus profond dans le travail et dans la société. Et puis, sans parler de l'angoisse pour le peuple hébreu à l'idée d'enfanter, avec les tentations d'avoir une logique contraceptive, on le voit. La tradition juive dit que les chefs, à ce moment-là, le père notamment de Moïse, avait dit aux autres clans, on va arrêter de s'unir à nos femmes, comme ça, ça va limiter la casse. Et sa fille Myriam, qui était quelqu'un doté d'un talent de prophétie, un sérieux talent de prophétie, nous raconte la Bible, et puis là, c'est la tradition juive plutôt qui raconte ce passage, et allait voir son père en disant, mon père, vous êtes encore pire que le pharaon, parce que, en plus de tuer les mâles, vous tuez les femelles, enfin les filles. C'est-à-dire, vous empêchez même les filles de naître. Le pharaon, il voulait tuer une personne sur deux. À cause de vous, même les filles ne naîtront pas. C'est-à-dire que si vous promulguez dans le peuple hébreu le fait d'être contraceptif, de dire c'est la sécurité qui nous pousse à faire ça, vous allez à l'encontre du projet de Dieu, qui est un projet de vie, et vous dites à tout le monde que vous n'avez pas la foi, qu'il faut arrêter d'avoir la foi, que quand à la première grosse épreuve, on arrête d'avoir la foi. D'ailleurs, Myriam dira à son père, puisqu'il a dit jeter les enfants mâles dans le fleuve, faites-le, vous verrez, on va mettre Dieu au défi. Et c'est ce qu'ils font. Du coup, ils mettent Moïse dans un... Donc en fait, je trouve ça beau, parce que c'est un acte de foi terrible de dire au Seigneur, une autorité me demande ça, après tout, c'est pas de trancher la gorge de mon fils, c'est de le jeter au Nil, faisons-le intelligemment. Et puis elle suit quand même le panier, parce que je pense qu'il doit y avoir... Elle se dit, je rattraperai le coup si jamais il y a un crocodile ou quelque chose. Bon, mais voilà, c'est quand même Enfin, c'est beau, je trouve. J'avance. Comme les sages-femmes avaient craint Dieu et que Dieu leur avait accordé une descendance, Pharaon ordonna à tout le peuple, tout garçon nouveau né, jetez-le au fleuve, toute fille, laissez-la vivre. Voilà. Donc là, maintenant, c'est plus les sages-femmes, parce que les sages-femmes, elles font pas ce qu'on leur demande, elles ont pas, elles reviennent vers le pharaon en disant, mais c'est pas notre faute, à chaque fois, les femmes, elles accouchent juste avant qu'on arrive, on n'a pas eu le temps, elles trouvent des excuses, tout ça. Elles arrivent à trouver un langage pour répondre malgré leurs difficultés. Et maintenant, c'est tout le peuple qui est censé appliquer cette loi. Exode 5, j'avance de 4 chapitres. En ce jour-là, le pharaon ordonna aux chefs de corvée et aux scribes du peuple, « Vous ne fournirez plus au peuple, comme auparavant, la paille pour fabriquer des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser la paille. Imposez-leur de faire autant de briques que jusqu'ici, n'en réduisez rien. Ce sont des paresseux. C'est pourquoi ils disent « Allons sacrifier à notre Dieu. Que la servitude pèse sur ces gens et qu'ils travaillent sans rêvasser à des paroles mensongères. » Donc, pour fabriquer des maisons, des briques, en Égypte, à cette époque-là, c'était une forme de torchis. Il y avait besoin de paille et d'argile. Et ils avaient gardé encore à ce stade-là les travaux jugés les plus accablants, c'est-à-dire ramasser l'argile, aller creuser pour trouver de l'argile, et les travaux les plus légers pour les Égyptiens, c'est-à-dire ratisser et faire des bottes de paille pour qu'ensuite on arrive à mélanger les deux. Et là, Pharaon dit maintenant... il va y avoir un chômage forcé. Comment on appelle ça aujourd'hui, on l'appelle ça comment, le chômage forcé? Où on rémunère quand même les salariés et ils n'ont pas le droit d'aller travailler.
Chômage partiel.
Oui, un chômage partiel. Vous allez toucher un chômage partiel. C'est pas nouveau, hein. Vous allez toucher un chômage partiel. Vous n'avez plus le droit. Vous devez les regarder. Et eux, ils vont devoir non seulement continuer à ramasser de l'argile, mais aussi s'occuper de la paille. Donc multiplier le travail quasiment par deux. Donc ça amène immanquablement à un renforcement du clivage entre les Égyptiens et les Hébreux, avec une tentation de que les Égyptiens prennent les Hébreux comme responsables de cette situation, où eux-mêmes, quand on n'a pas grand-chose à faire dans ces journées et qu'on en y est contraint, c'est pas évident, en fait. Donc c'est angoissant pour les Égyptiens et les Hébreux, c'est source de division. Alors que c'est vrai que le chef d'un peuple est normalement là pour prendre des mesures... qui crée l'unité dans son peuple. En fait, on n'est pas censé diviser les citoyens. Petit 3, livre 2, une nouvelle montée de l'angoisse. L'étape suivante, c'est le fait que Dieu intervienne de manière plus directe, plus franche. Parce qu'avant, il intervenait quand même à travers les circonstances, les événements, etc. Mais là, il va intervenir d'une manière où on va dire c'est Dieu. C'est les 10 fléaux d'Égypte, ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. L'angoisse est déjà bien présente, et elle se renforce, et elle vient comme user peu à peu les Égyptiens. Pourquoi ? Puisque il semble que peu à peu, le peuple égyptien se rende compte que le pharaon ne peut pas les protéger, et d'ailleurs, il ne cherche pas à les protéger. C'est-à-dire que ces déploiements toujours de surenchères théâtrales de pharaon ne sont en définitive qu'une mise en scène de sa propre colère. Une manière de cacher le fait qu'il ait un compte à régler. Et il va enrober dans ce mensonge et avec des choses très démonstratives. Et du coup, pour les Égyptiens, c'est de plus en plus angoissant de douter de plus en plus de « Mais est-ce que ce responsable qu'on a ne se joue pas de nous ?» Voici quelques éléments qui renforcent l'angoisse des Égyptiens. Par exemple, Pharaon va faire appel à des magiciens qui arrivent à imiter Moïse et Aaron. Au moins sur les premières plaies, parce qu'au bout d'un moment, ils n'y arriveront plus. Mais en fait, ils arrivent eux aussi à changer l'eau en sang, mais ils n'arrivent pas à refaire de l'eau. C'est-à-dire qu'ils disent, regardez, nous aussi, on en fait du sang, mais ok, mais plus personne ne peut boire, donc ça ne sert à rien. Et quand Dieu a fait ça, en fait, Dieu montrait, symboliquement, vous faites couler le sang, puisque vous faites, je dirais que la religion du soleil... est quelque chose qui crée de l'injustice, qui fait qu'on se critique les uns les autres, qu'il y a des injustices dans la société, qu'il y a des enfants qu'on tue. Donc voilà, cette eau du Nil, je la change en sang pour vous montrer que tous les courants commerciaux, tous les prières que vous faites, tous les flux symbolisés par le Nil, voilà à quoi ça sert. Ça sert à faire du sang. Ben, je vous montre que ça fait du sang. Et au lieu de refaire de l'eau en disant on va se convertir, ça serait ça, refaire de l'eau. Mais les magiciens disent, regardez, nous aussi, hop, magie, on fait du sang. Donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose d'anxiogène, parce que les magiciens de Pharaon, qui sont censés défendre Pharaon, en fait, ils défendent en apparence le fait que Pharaon est plus fort, mais en fait, ça ne défend pas Pharaon. Parce que la vraie défense de Pharaon, ça serait de refaire de l'eau. Ça serait de dire, on va abreuver notre peuple, parce que pendant 7 jours, il n'y a plus d'eau. C'est... Ne pas boire pendant 7 jours, c'est... ça ne doit pas être évident. Deuxième chose angoissante pour les Égyptiens, lorsque Moïse propose de prier afin que les grenouilles s'en aillent, il lui dit « Quand est-ce que tu veux que je prie pour toi ?» Ce pharaon a l'air motivé pour que Moïse dise « Je vais prier pour toi. » Et Pharaon dit ben, « Demain, t'as qu'à prier demain. » Donc on imagine, il y a des grenouilles partout, dans les pétrins, dans les lits, dans les chambres, dans les partout. Il y a des grenouilles qui font quoi, qui sentent mauvais, qui font leurs besoins, qui mangent tout, etc. Et Pharaon dit « Demain. » Il y a un côté... orgueilleux, je dirais, qui est quand même très apparent, mais pourquoi il l'a pas dit aujourd'hui, quoi? Imaginons, notre enfant se fait casser la figure dans la cour, est-ce que tu veux que j'appelle l'école pour que ça s'arrête? Je le ferai demain. Aujourd'hui tu vas encore supporter, et puis demain matin aussi, peut-être demain en fin de journée, j'appellerai l'école, quoi. Bah oui, mais si ton enfant il est persécuté dans la cour, tu agis tout de suite, quoi. Le demain, bibliquement, est quelque chose qui... Faut mieux éviter de dire demain quand Dieu nous demande quelque chose. Sinon, on fait comme Pharaon. Troisième chose qui renforce sans doute cette angoisse chez les peuples païens symbolisés par les Égyptiens, Pharaon ne prévient pas son peuple de la grêle. C'est-à-dire que Moïse vient le voir et lui dit, il va y avoir de la grêle. Dis à tout le monde de se mettre à l'abri, les hommes, les bêtes, tout ça. Et il ne le fait pas. Et donc certains serviteurs ont entendu et ont prévenu, et certains ont appliqué en disant « bon, on va faire », parce que on commence à voir que Moïse et Aaron, ils ont l'air d'avoir Dieu avec eux, mais une partie du peuple et des bêtes meurent. Quatrième chose qui est de plus en plus angoissante pour ces nations environnantes, c'est à la huitième plaie, les sauterelles ou les criquets, c'est que les serviteurs de Pharaon disent « laisse partir les hommes, ils te demandent d'aller faire un sacrifice à 3 jours d'ici », laisse-les partir, laisse tomber, quoi, tu t'acharnes. Donc on voit que, d'habitude, les serviteurs qui semblaient se taire devant leur chef commencent à prendre la parole. C'est pas rien. Je pense qu'à la cour de Pharaon, c'était pas tous les jours que ça se passait comme ça. Autre élément qui montre une angoisse qui se renforce sans arrêt, les Égyptiens vont confier aux Hébreux leurs objets précieux, parce qu'ils n'ont plus confiance en Pharaon. Ça, c'est l'ordre de la plaie des ténèbres. Il y a un transfert. Les objets précieux, c'est les Hébreux qui vont les garder, puisque avec les ténèbres, nous doutons que notre chef soit encore en mesure de nous protéger contre un vol. C'est ces objets-là qui sont les choses qui sont importantes pour nous. Nous sommes très matérialistes. Notre bonheur, c'est que nos objets soient placés entre de bonnes mains. Et dernier élément qui, d'après moi, je dirais, va secouer un bon coup ces nations environnantes, c'est que Pharaon va envoyer son peuple au casse-pipe en lui demandant par haine de suivre les Hébreux à travers la mer Rouge. C'est-à-dire qu'il a fini par dire « Je vous laisse partir », et puis en fait il se dédie en mentant, en disant « Je regrette de les avoir laissés partir, qui va faire tous les travaux accablants maintenant que j'ai mis en place un régime où, de caste où les pauvres c'est les Hébreux et c'est eux qu'on a le droit de persécuter, c'est eux nos boucs émissaires. Finalement, ça m'arrangerait bien qu'ils reviennent, et il va envoyer son peuple au casse-pipe à travers la mer, c'est pas lui qui s'engage d'ailleurs à travers les flots, et on sait comment ça va terminer. J'arrive à la grande partie suivante, qui est l'entrée des Hébreux dans le lieu de la paix. On a observé un premier temps pendant lequel les Hébreux et les Égyptiens étaient frappés, les deux peuples étaient frappés par les plaies, bien qu'on ait l'impression que les Hébreux soient épargnés en partie, mais le texte ne le dit pas explicitement. Les traditions juives, certaines traditions disent, on pense qu'ils étaient épargnés aussi, mais moi pour ma part, je pense qu'ils ont subi une bonne partie des premières plaies. Et on observe comme un basculement à partir de la quatrième plaie. C'est la plaie de la vermine ou l'anophèle, c'est les mouches venimeuses, dans Exode 8, 18. Dieu dit à Moïse, « Ce jour-là, je ferai une distinction pour le pays de Gozen, où mon peuple se tient. Là, il n'y aura pas de vermine, pour que tu connaisses que moi, le Seigneur, je suis au milieu du pays. Je ferai un geste libérateur pour séparer mon peuple de ton peuple. Ce signe aura lieu demain. » Le Seigneur fit ainsi. La vermine entra en masse dans la maison de Pharaon, dans la maison de ses serviteurs, et dans tout le pays d'Égypte. Le pays était infesté de vermine. La vermine, pour nous, ça va être les temps. Des temps partout, quoi. C'est des genres de bestioles qui font moins de bruit, mais quand on se fait piquer, ça fait bien mal. On a l'impression que, au travers des premières plaies d'Égypte, les Hébreux se sont purifiés des mauvaises habitudes des Égyptiens qu'ils avaient prises, et que le fait de s'être purifiés, d'avoir réalisé leurs imperfections, ils ne sont plus frappés par les fléaux suivants. Moi, c'est ça qui me vient quand je lis ces textes. Je me dis, il y a comme un appel, on va trouver ça dans les prophètes plus tardifs, qui disent il faut fuir Babylone. Et fuir Babylone, ça va être revenir dans le droit chemin sur des choses où on était un peu trop laxiste dans notre vie pour, je dirais, être hors des... que notre âme n'ait plus les rugosités habituelles qui font que ça donne prise aux plaies suivantes, quoi. On ne sera plus frappé par les plaies. Première petite partie, je vais dire un mot sur Gozen. Qu'est-ce que Gozen ? Ce lieu... Où sont les Hébreux ? Ça veut dire en hébreu « lieu du soleil ». Donc symboliquement, peut-être un lieu que le soleil continue à éclairer, un lieu que Dieu continue à combler de grâce. On a l'impression que Dieu se retranche derrière les nuages partout en Égypte, sauf à Gozen, où il fait toujours beau. Enfin, où il fait beau régulièrement. Gozen, ça veut dire aussi « terre de force », probablement où le Seigneur continue à donner une nourriture solide. Gozen aussi, ça veut dire terre herbeuse. L'herbe, ça désigne la spiritualité dans la Bible. La terre herbeuse, c'est donc ce pays où les conditions sont idéales pour cultiver la spiritualité, pour être le terreau de la tradition, c'est l'endroit où il y a les sages, c'est un lieu où on se ressource, où on refait son calme intérieur, sa paix intérieure. Ce lieu a été obtenu par grâce au patriarche Joseph, quelques années auparavant. Joseph qui avait sauvé l'Égypte. Donc il avait été persécuté par ses frères, et cette persécution et ce don qu'il avait fait de lui-même avait abouti à être second du territoire d'Égypte. Et Joseph, après de longues années, s'était fait reconnaître à ses frères, et il leur dit, en Genèse 45:9, il leur dit « Mes frères, dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui dire, parce que son père... Isaac n'était pas mort encore. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui dire, ainsi parle Joseph ton fils, Dieu m'a promu seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi sans t'arrêter, tu demeureras dans le pays de Gozen, et tu seras près de moi, toi, tes enfants, tes petits-enfants, ton petit, ton gros bétail, tout ce qui est à toi. C'est là que je pourvoirai à ta subsistance, pour que tu ne sois pas privé de ressources, toi, ta maison et tous les tiens, car il y aura encore 5 années de famine. » On a l'impression, en lisant ça, que ce lieu a été fait exprès pour le peuple de Dieu pour affronter les temps difficiles. Voilà. On a l'impression que le sacrifice de Joseph a obtenu qu'il y ait un lieu dans lequel le peuple de Dieu soit hors d'atteinte. Et du coup, en lisant ça, pour un chrétien, c'est dur de ne pas penser au Christ qui s'est sacrifié pour son peuple, et qui a réservé un lieu, sans doute, pour les chrétiens. Il existe un lieu, par Jésus, où on peut trouver la paix. Alors, comment rentrer en Gozen, petit 2, dans cette grande partie ? Pour moi, le maître mot est distinction. Il est dit, en ce jour-là, je ferai une distinction. Quand on parlait de la quatrième plaie, la vermine. Je ferai une distinction. Donc, qu'est-ce que la distinction ? Dans la mentalité juive, c'est une séparation d'avec les coutumes des païens. Quand on étudie ce qu'est le judaïsme, à quoi sert cette religion, qu'est-ce qui la caractérise, comment les juifs se définissent, la réponse que l'on nous donne est la suivante. Le judaïsme, c'est la sanctification de tous les aspects de la vie. C'est-à-dire, tout ce que je fais, ça va être pour Dieu, avec Dieu, en Dieu. Ça va se décliner par 613 commandements, qui ont été fixés par les rabbins. C'est-à-dire qu'il y a eu la parole de Dieu, et puis à partir de cette parole, les rabbins ont glosé et ont essayé de réfléchir aux choses qui pouvaient manquer en termes de détails. En fait, c'est comme des décrets d'application pour rester en lien étroit avec le Seigneur et être un peuple de prêtres, prophètes et rois pour le reste de l'humanité. Ça, c'est la vocation d'Israël et des chrétiens depuis le Christ. Mais les deux. Je précise que c'est les deux parce que je pense qu'une erreur qu'on pourrait faire, c'est de dire les Juifs n'ont plus cette élection. Or, tout nous montre dans la parole de Dieu qu'ils continuent à avoir cette élection. Ils n'ont pas forcément une pleine communion avec le peuple de Dieu quand ils s'acharnent contre Jésus. Mais pour ceux qui ne s'acharnent pas contre Jésus, c'est nos frères et sœurs, en fait. Il y a quelque chose de très fort qui nous réunit, en fait, qu'on ne voit pas pour l'instant. Ces 613 commandements, quand ils sont appliqués, bien sûr, sans être trop légalistes, vont être source de fécondité pour que tout devienne la présence de Dieu, dans Gozen notamment. Mes habits, je vais m'habiller sans mêler deux tissus différents, par exemple. Je vais manger en mangeant certains aliments et pas d'autres. Dans mes actions, le jour du sabbat, dans le temps, il y a des choses qu'on fait, qu'on ne fait pas. Alors que le reste de l'humanité n'est pas soumis à cette loi-là. Quel est le régime pour le reste de l'humanité? C'est la loi noachique, c'est-à-dire les éléments que Dieu a donnés à Noé après qu'il ait sacrifié à la sortie de l'arche, après le premier renouvellement du monde. Il y a des éléments que sont censés appliquer tous les païens. Donc c'est, je dirais, un ensemble de choses qui font que les païens vont, je pense, avoir une union avec Dieu, mais n'ayant pas eu la révélation, ils ne vont pas être aussi contraints que le sont les juifs, qui sont le peuple de Dieu. Donc les 7 commandements, je peux les dire ici, c'est les rabbins en fait qui ont, en fait, en interprétant ce texte, c'est croire en un Dieu unique, ne pas blasphémer, interdiction du vol, de l'immoralité sexuelle. Et il y en a un que j'ai trouvé surprenant, c'est ne pas consommer le membre d'un animal encore vivant. Je pense que ça va être ne pas faire souffrir inutilement les animaux. On le retrouve dans le Nouveau Testament, en fait, après le premier concile de Jérusalem, quand ils disent est-ce qu'il faut imposer les coutumes juives aux païens, etc. On va retrouver cet élément-là. En fait, ne pas faire souffrir les animaux. Et puis la constitution de tribunaux. C'est-à-dire qu'il y ait des lieux où des spécialistes règlent les litiges. Voilà. Et où les gens ne soient pas dans une partialité. Pour nous chrétiens, comment rester en Gozen? Eh bien, qu'est-ce qui nous relie à Dieu et qui nous sépare des mœurs qui vont à l'encontre de Dieu? Ça va être un peu comme les juifs, en fait, hein, mais avec nos armes à nous. Ça va être lire la parole de Dieu, avoir des temps de prière fréquents, pardonner régulièrement, vivre les sacrements quand on est catholique. Bon, on connaît ces choses-là. C'est les choses sur lesquelles les prêtres nous enseignent de manière fréquente dans les homélies. C'est ce qui nous fait, en fait, entrer dans ce désert, dans ce lieu de calme intérieur, dans Gozen. Donc, comme on connaît Jésus comme Messie, qu'est-ce que Gozen pour nous? Je pense, il y a deux choses qui me viennent. Il y a le cœur du Christ, pour nous. Gozen, ça va être ça, le cœur du Christ, ce cœur qui a tant aimé le monde, qui a été ouvert par la lance du soldat. Depuis ce temps, à tout moment, un chrétien peut faire oraison et demander de trouver refuge dans le cœur du Christ, à l'abri de l'angoisse, de la peur, de l'agitation, du bruit. C'est un entraînement dans la prière. Il y a des mystiques comme Saint Jean de la Croix ou Sainte Thérèse d'Avila qui expliquent ça. Et puis le meilleur moyen, c'est de s'exercer à l'oraison avec quelques tuyaux, parce que c'est quand même pas mal d'avoir des gens qui savent un peu faire, qui nous expliquent. Donc le cœur du Christ. Deuxième élément en lien avec Gozen pour nous chrétiens, je pensais au lieu secret du Très-Haut. Un certain nombre de personnes en parlent beaucoup. Le lieu secret du Très-Haut. Il commente le psaume 91, ou 91-90. « Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant. » À l'abri du Très-Haut. Dans le lieu secret du Très-Haut. C'est comme un refuge du Père. Un lieu absolu de sécurité, de calme, de paix offerte par le Seigneur. Et En fait, qu'est-ce que c'est? Ça va être la volonté divine, je pense. Il y a des personnes qui en parlent très bien. C'est en unissant notre volonté à celle de Dieu, c'est-à-dire en renonçant, je renonce à ma volonté, afin que tout ce qui m'arrive ne soit que des merci, en toute situation, y compris dans les épreuves. Saint Paul donnera des expressions similaires comme, par exemple, être en Christ ou être collé à la croix. Je renvoie par exemple à Luisa Picaretta, si vous voulez creuser cette manière-là, cette spiritualité-là, qui rejoint complètement la spiritualité du cœur du Christ. Hein. Je m'enfouis dans la volonté divine, c'est comme dire je m'enfouis dans le cœur du Christ. Et je retrouve un calme séraphique, simplement parce que ma volonté ne va plus subir les angoisses de me dire que la situation m'échappe, puisque c'est Dieu qui contrôle tout. Je vais poursuivre avec la suite des plaies d'Égypte. Petite partie suivante, l'accélération de l'angoisse et l'ancrage en Gozène. L'endurcissement de certains, ou le fait que certains, chez les peuples païens, symbolisés par les Égyptiens, se décrochent petit à petit en disant « Non, ce mensonge-là ne nous sied pas, la vérité est du côté des Hébreux. » Un endurcissement des autres, malheureusement, et puis un approfondissement de la vie intérieure pour les Hébreux. C'est un mouvement progressif d'une angoisse ambiante, en fait. Hein. C'est un des rôles de l'angoisse. L'angoisse, on voit que c'est comme un médicament qui va enlever les grâces de ceux qui ne s'en servent pas, qui va agir comme dans la parabole des graines de la parole de Dieu qui tombent sur le chemin. Et au lieu de ne servir à rien, puisque sur un chemin, c'est vrai que les racines ne vont pas pouvoir pousser, elles vont être emportées par les oiseaux. Et on sait ce que font les oiseaux. Elles vont les manger, et puis après, ça va retomber dans la terre, et un certain nombre de graines ont la capacité de résister à la digestion des oiseaux, et vont être semées ailleurs, en plus avec de l'engrais, et voilà. C'est extraordinaire, cette capacité de Dieu de se servir de choses qui nous semblent impossibles à utiliser. L'endurcissement de Pharaon, une tradition juive explique cet endurcissement en disant Pharaon atteint un stade où il a décidé de ne pas se convertir, mais c'est une décision beaucoup plus profonde, de s'enfouir dans le mensonge. Et cet endurcissement va faire qu'il y a des grâces qu'il a encore dans le cœur qui ne servent pas. C'est le fait qu'il a encore l'idée de se convertir. Il se dit, oui, je pourrais me convertir, j'ai cette idée-là, mais je sais que je ne m'en servirai pas. Eh bien, les anges desservants, disent la tradition juive, vont enlever l'idée même de se convertir, c'est ça l'endurcissement, pour les donner à d'autres personnes qui n'avaient pas pensé que, par exemple, qui appliquaient strictement toutes les règles et puis qui bâtissaient Pitom et Ramsès, ces entrepôts, où petit à petit ils s'éloignaient de Dieu sans s'en rendre compte, enfin il y avait un trouble qui les gagnait, tout au moins. Et d'un coup, cette grâce va leur arriver dessus, tiens, si je changeais ma manière de penser. Plaie numéro 5. C'est, je pense, le fait d'être tenté de frauder, d'être injuste, de voler, de tricher pour survivre. La situation se durcit. Qu'est-ce qui va se passer? Cette plaie, c'est la peste du bétail. C'est ça qui va frapper les Égyptiens pour leur montrer que quand on est injuste, cette injustice va porter des mauvais fruits dans le travail et dans toutes les activités faites injustement. Parce que les bêtes vont représenter le fruit de notre travail, les bœufs, les poules, les ovins, etc. Et notre bétail va mourir de la peste. Je suis injuste. Avec mes salariés, mon entreprise va péricliter. J'exerce un service d'église de manière brutale et légère, en faisant les choses au minimum. Mon service va petit à petit s'étioler. C'est ça la peste du bétail. Et la peste du bétail ne frappe pas les troupeaux d'Israël, car le Seigneur fait une distinction. Là, c'est dit dans le texte. Alors pourquoi ? Sans doute parce que les élus s'efforcent coûte que coûte d'être justes en se disant « Oh là là, il y a des choses, on nous a dit qu'il y avait une peste qui arrivait, on va continuer à être juste quand même, on va payer la personne qu'il faut payer, on va voilà, je continue à faire les choses de manière juste, à faire bien les choses pour le Seigneur, même si personne ne me voit. » Voilà. Et en fait, en faisant ça, en étant irréprochable, en étant saint, parce que moi je suis saint, dit le Seigneur, eh bien ils ont cette grâce de recevoir un sceau. Parce que le fruit de cette justice, c'est de recevoir, d'être marqué par le sceau de Dieu. Je renvoie à Apocalypse 7.2, et je viens un autre ange qui monte à l'Orient, il tenait le sceau du Dieu vivant, d'une voix forte il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, gardez-vous de nuire à la terre et à la mer et aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau de Dieu les serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau, 144 000 marqués du sceau de toutes les tribus d'Israël. Qu'est-ce que le sceau? Eh bien, c'est une protection contre l'angoisse. Donc, marqué du sceau de Dieu, ça veut dire les anges qui viennent marquer. Il y a des mystiques qui parlaient de la Vierge Marie qui vient leur faire un baiser sur le front. Alors, je la vois pas mettre du rouge à lèvres, mais on imagine que la marque des lèvres reste et que les fléaux ne passent outre en disant « Ah non, là, il y a la Vierge Marie, on n'aime pas la Vierge Marie, et ils s'en vont. » Donc, c'est une protection forte, ce sceau, contre l'angoisse, le découragement. C'est un vrai bouclier spirituel. On a des mystiques aujourd'hui qui, annonçant certaines choses très précises, en disant « Un jour, il y aura des armées, il y aura tel machin, tel truc », ils disent que ceux qui auront le sceau de Dieu pourront se déplacer, réussiront à aller d'un point à l'autre parce qu'ils marcheront avec confiance. Et au lieu de mettre leur confiance dans des choses assez matérielles, ils seront prudents bien sûr, mais avec ce sceau simplement, ils auront une assurance très forte et ils auront, je dirais, la promesse de Dieu d'être accompagnés même dans des situations qui semblent inextricables. Le sceau, en lien avec la peste du bétail. La plaie numéro 6, c'est le fait d'être fortement tenté par l'adultère, au sens biblique, c'est-à-dire d'aller chercher des solutions auprès de personnes connectées au ciel, à travers la magie, à travers la voyance, en disant bah, « le ciel a l'air contre nous, je vais demander à des personnes qui connaissent bien tout ça ». Et c'est cette plaie des furoncles qui couvre tous les magiciens. Qu'est-ce que ça signifie? Moi, il me semble que ils sont frappés par une angoisse terrible. C'est-à-dire que ceux qui ont recours à des procédés magiques sont frappés par l'angoisse d'une manière terrible. Nous voyons le fruit de recourir à la divination, hein, on y récolte l'angoisse. Un certain nombre de personnes angoissées vont souvent avoir des antécédents d'avoir consulté, ou des personnes de leur famille qui ont consulté des magnétiseurs ou autres. C'est des choses pour lesquelles, en fait, les magnétiseurs eux-mêmes et les gens qui pratiquent la sorcellerie vont souvent faire une surenchère de pratiques magiques pour ne pas que leur angoisse les rattrape, en fait. Des personnes qui pratiquaient la magie et ces choses-là témoignent, et qui se sont converties, témoignent qu'elles allaient de plus en plus loin parce qu'elles avaient peur que leur angoisse les rattrape, et il y avait des angoisses terribles qui les assaillaient. Et c'est vrai que pour les Hébreux, on imagine, à l'inverse, les Hébreux qui étaient à Gozen, ils ont sans doute dû s'accrocher à Dieu de toute leur force en disant « Oh là là, il y a des furoncles qui arrivent. « Seigneur, j'ai foi en toi, j'ai foi en toi, j'ai foi en toi. » Et le fruit, je dirais, inverse de cette angoisse, c'est la paix. L'angoisse, à mon sens, le principal remède, c'est « Je demande au Seigneur d'avoir la foi. » Je vais prier le jour croisant Dieu, je vais demander « Seigneur, donne-moi la foi. » Je vais décider que le Seigneur est le premier dans ma vie et que je m'appuie sur lui. Et c'est la paix qui va être le fruit que je vais récolter. Un autre, alors je fais une parenthèse, c'est un témoignage de deux personnes qui étaient allées en Afrique, enfin c'est des Africains en fait, qui étaient venus évangéliser un village. Et en entrant dans le village, ils chantaient en langue, parce que le chant en langue est une prière qu'on associe au milieu charismatique, mais qui, à mon sens, est une des prières dans notre panel de prières et qu'il est intéressant d'apprendre à maîtriser, surtout dans notre période. Parce que le chant en langue, ça fait comme un vin qui vient faire éclater nos vieilles outres et nous donner une joie intense et une paix intense qui vient faire que l'Esprit Saint va nous expliquer quels sont nos dons. Et ça, c'est une source de joie et de paix aussi. On va comprendre qu'est-ce qu'on fait là et qu'est-ce qu'on peut apporter à nos frères et sœurs. En quoi, non, on n'est pas nul. En quoi, on a des vrais charismes déjà et on va en avoir d'autres. Et donc, ces deux personnes, en arrivant dans le village, chantaient en langue et il y a deux personnes qui sont arrivées en courant et en hurlant en disant « Qu'est-ce que vous nous avez fait ?» Alors, ils disent « Rien, on arrive avec notre joie. » Mais on était en train de faire des sortilèges et des incantations, et on a eu quelque chose qui nous a complètement assourdis, qui nous a empêchés de prier, de prier nos dieux. « Qu'est-ce que vous nous avez fait ?» C'est plus puissant que toutes les magies qu'on connaît. Alors, ils disent « On a chanté en langue. » C'est une manière de dire, le principe du chant en langue, c'est je chante un peu comme un enfant, je ne sais pas trop ce que je dis, mais j'ai dans ma pensée le souhait de parler à Dieu. Quoi. C'est pas juste de faire chanter la chemin, je vais le faire avec un cœur à cœur, un cœur ouvert à Dieu. Seigneur, c'est pour toi que je dis ça. C'est des gémissements inexprimables que j'exprime en ta présence. Et ces deux personnes se sont converties, Ils sont devenus adeptes du chant en langue, qui est une des prières, voilà, en lien avec la foi, c'est un remède de cheval, si j'ose dire, dans notre période actuelle. L'appel numéro 7. Alors, l'appel numéro 7, pour les Égyptiens, correspond, je pense, à cette tentation de se refermer sur soi, d'être retranché dans son orgueil, en fait, hein, de ne plus s'appuyer sur les autres, en disant « les autres sont un risque pour moi, finalement, moi, je me connais, en m'appuyant juste sur mes forces, au moins, je n'aurai pas de déconvenu. » Et la plaie de cette... donc, c'est la grêle, cette plaie, numéro 7, elle n'atteint que les Égyptiens et leurs troupeaux, qui ne sont pas abrités, sauf les quelques-uns qui, par humilité, avaient écouté le conseil de Moïse, ou qui avaient été prévenus. Donc, on voit là que se poser la question de l'obéissance, c'est un vrai sujet. L'humilité, en fait, c'est ce qui permet d'éviter que nos projets s'écroulent. Ça ressemble un peu à la peste du bétail, en fait, à cause du fait qu'on ne s'appuyait que sur nous-mêmes. Donc, l'humilité, quelques clés par rapport à ces temps un peu particuliers où les montagnes dansent d'eschatologie, toujours dans cette septième plaie, hein, bien sûr. En fait, en temps eschatologique, je pense, encore plus que d'habitude, il faut réussir à naviguer entre trois obéissances, entre trois dispositions d'humilité. Il y a les lois de l'État. L'État représente l'autorité et dit, voilà la règle que j'impose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est l'État qui demande ça. Il y a l'obéissance à notre conscience. Je vais me faire vacciner, je vais pas me faire vacciner, ben, j'ai quand même un devoir de faire quelque chose qui fasse que, une fois que je l'aurai fait, je me sente en paix. Je me dise, ma place, c'est ça. Parce que là où je suis, j'ai pas le choix de faire de manière X ou Y, ou alors je sens que ça va être un combat trop fort pour moi. Il y a ma conscience, c'est la deuxième loi par rapport à l'humilité. Et la troisième, c'est l'obéissance à notre frère ou notre sœur, les gens à côté de nous, proches de nous, à un instant T, qui risquent d'être scandalisés. Et un exemple gros comme une maison par rapport à ça, ça va être le port du masque. Moi, je trouve ça intéressant, le port du masque, parce que il y a à la fois l'État demande quelque chose, alors qu'on pourrait dire, bah oui, mais est-ce que l'air n'appartient pas à Dieu? C'est pas Dieu qui nous donne de respirer avec notre nez, il nous a fait comme ça. C'est parce que c'est pratique, ça fait un courant d'air qui est parfait pour pouvoir s'oxygéner correctement, recracher nos déchets. Bon, admettons, je vais essayer d'être humble, je vais mettre le masque parfaitement tout le temps. Bon, oui, mais moi, ça va peut-être heurter ma conscience, c'est-à-dire que je vais peut-être me mettre à douter tellement de Dieu si je le mets tout le temps parfaitement que je vais me séparer de Dieu. Donc, je suis pas très humble si je fais ça. Et puis, peut-être qu'il y a des situations où je vois qu'il n'y a pas de risque objectivement, que voilà, on est en extérieur, par exemple, ou autre, mais que il y a des personnes à côté de moi qui vont être très angoissées si je ne porte pas le masque. Et donc, il me semble que l'humilité, c'est une bonne boussole pour les temps où les montagnes dansent. C'est-à-dire qu'on va se ramener à ce qui est le plus important, à mon sens. C'est pas forcément le masque ou pas le masque, même si il y a un côté exécrable et humiliant. Enfin, moi, pour moi en tout cas. Ou d'être vacciné ou pas vacciné, ou autre. C'est d'abord, est-ce que je vais réussir à respecter les trois types d'humilité pour rester proche de Dieu, rester soumis d'une certaine manière à ce que me demandent les autorités, à l'agent de police qui est dans la rue, à la personne qui est à l'entrée de l'école, à la maîtresse, à l'agent de la SNCF, et puis à la caissière qui peut-être, si j'ai mon masque sous le nez, va être très angoissée, parce que visiblement, c'est quelqu'un qui peut-être traverse des épreuves particulières, et elle a son vécu qui fait qu'elle en est là, et vis-à-vis de mon frère ou de ma sœur, il faut peut-être que je le remonte en passant devant elle. Le fruit pour ceux qui travaillent leur humilité, qui demandent au Seigneur de visiter, transformer leur orgueil en humilité, c'est d'être nourri. Autre exemple pour notre période actuelle, je vais être secoué lors d'une discussion avec quelqu'un qui est, par exemple, pro-vaccin ou anti-vaccin, peu importe, mais qui ne respecte pas mon avis, et il va déverser sa colère sur moi en disant que j'ai rien compris et que je mets en danger la société parce que je suis vacciné ou parce que je suis pas vacciné. L'humilité, ça peut être de dire, Seigneur, donne-moi la grâce d'arriver à l'écouter, de quasiment rien dire.
Et cette humiliation, c'est une ouverture de l'âme, en fait, c'est une respiration de l'âme. Et mon âme, qui va s'ouvrir un peu plus, va être nourrie. Je vais recevoir ma nourriture alors que il y a quelqu'un qui est en train de vider sa poubelle sur moi, et j'attends bien la fin pour qu'il y ait le jus du fond qui sorte, et que l'angoisse de cette personne, maintenant qu'elle a... parce que cette personne, elle a... c'est sûr que si elle m'incendie, c'est qu'elle a, elle a mangé du mensonge qu'elle a reçu dans les médias, dans l'air ambiant, et que ce mensonge, elle n'arrive plus à le contenir. Et mon frère, ma sœur, qui va me déverser sur moi cette haine, cette rage de la vie, je vais réussir à peut-être à la soulager de quelque chose, parce que moi j'ai une connexion avec Dieu, parce que j'essaie de vivre les sacrements, parce que j'essaie de pardonner. Bon, bah, je vais peut-être dire au Seigneur, je me suis pris un gros coup sur la tête là. Bon, j'ai réussi à répondre aux questions juste quand on m'a posé des questions, mais Seigneur, c'est quand même lourd, parce que c'est comme s'il y a un mensonge qui était rentré en moi, quoi. Donc j'ai besoin, parce que c'est une des caractéristiques du mensonge, quand quelqu'un décharge son mensonge et la colère qu'il y a derrière sur nous, c'est qu'après coup, on va rester marqué et on va avoir besoin de déposer ce mensonge et de dire, je pardonne à la personne, et Seigneur, pardonne-lui, elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Et voilà, on va avoir besoin de ça, de mettre à distance. Mais ça va travailler mon humilité. Et mon âme va être nourrie. Alors, les effets de la grêle, ça représente le fait de s'appuyer sur soi-même uniquement, et le moins possible sur les autres. C'est que ceux qui, du coup, vont se couper des autres pour dire « je ne m'appuie que sur moi, au moins, ça, c'est la sécurité que de faire ça », moi, je le voyais comme le fait d'être régulièrement humilié en étant doublé par d'autres qui vont plus vite qu'eux, dans les entreprises, dans les paroisses, par des gens qui vont croire dans la relation à l'autre, en fait. Qui vont continuer à croire dans la relation, qui vont continuer à faire confiance aux autres, qui vont continuer à travailler à plusieurs. Ils vont se dire, mais comment ils font pour aller aussi vite, alors que moi qui ne prends pas de risque, parce que j'applique tout ce qu'on me demande, je vois bien qu'en étant seul, les autres, ils ont l'air d'être plus vigoureux que moi. Cette nourriture, en fait. Bon, j'arrête sur cette plaie-là. La plaie numéro 8. Alors la plaie numéro 8, moi il me semble que c'est la tentation de s'évader dans les plaisirs, les distractions. C'est la plaie des sauterelles. Là aussi c'est que l'Égypte, hein, et Dieu dit « je vais me jouer de l'Égypte ». Donc ça veut dire que vous n'allez pas être frappé par les sauterelles, hein, c'est ça que je veux dire. Donc les sauterelles vont grignoter le peu de spiritualité qui reste à ceux qui sont trop à ignorer leur spiritualité. Je pense que ça va correspondre aux ronces de la parabole de Jésus. C'est les soucis de la vie qui font qu'on ne voit plus notre spiritualité. Le peu de petites attentions que Dieu a pour nous à travers quelqu'un qui va nous aider, à travers un beau coucher de soleil, à travers une odeur agréable, eh bien, on ne va plus s'en servir pour dire merci Seigneur. On ne s'en sert pas. On devient tout mou, en fait, hein. Alors que pour les Hébreux à Gozen, qui s'efforcent de prendre des temps de prière plus réguliers, de travailler en disant « je prie un peu plus régulièrement », plutôt que d'aller voir des ménestrels, des troubadours, ou tous les plaisirs qu'il y avait à l'époque. Et qu'est-ce que récoltent justement les élus ? Ben, ça va être la force. On se fortifie, les Hébreux vont devenir comme du sel, et partout où ils vont avoir un côté attirant. Il va y avoir une santé spirituelle qui va être beaucoup plus visible. Je pense au prophète Daniel et ses compagnons aussi, quand ils sont déportés à Babylone, ils demandent à ne pas manger les mets du roi, mais plutôt des légumes. On leur dit, d'accord, mais on vous laisse que 10 jours, parce qu'on a peur pour vous. Et au bout de 10 jours, tout le monde est ébahi de leur forme olympique. Cette tension dans la plaie numéro 8 des sauterelles, ceux qui s'évade dans les plaisirs, parce que c'est une forme de découragement aussi, et ceux qui renforcent leur temps de prière et leur relation à Dieu, et leur temps de méditation, d'aller se promener, de passer du temps à plusieurs, du temps de qualité, qui vont devenir plus forts, et qui vont récolter les grâces emmenées par les sauterelles. Je rappelle que les prophètes mangent les sauterelles, les gens comme Jean-Baptiste, donc ça veut dire que ceux qui vont prendre la spiritualité qui ne sert pas chez les Égyptiens,
c'est les Hébreux qui vont récupérer ça, quoi. Ils vont, en fait, c'est comme s'il pleuvait toujours autant sur notre monde aujourd'hui, mais que la pluie qui n'est plus bue par certains, qui ne se réjouissent pas, on va pouvoir boire beaucoup plus. C'est ça la plaie. La plaie numéro 10, je pense que c'est la tentation de désespérer, de dire la situation ne s'arrangera jamais. Forcément, il y a toujours des mesures toujours plus pires qu'avant. La situation ne se rétablit pas, il n'y a pas de retour à la vie précédente. Et c'est cette plaie de l'avènement des ténèbres, alors que les Hébreux à Gozen, qui se battaient toujours pour dire « Seigneur, malgré cette situation difficile, j'ai confiance en toi, je ne me décourage pas, et surtout, je vais continuer à faire des projets comme si tous les voyants étaient au vert. » Et le fruit qu'ils récoltent, c'est l'espérance. Voilà. Quand j'arrive à dire « Allez, je suis maîtresse et je vais quand même organiser un voyage scolaire », eh ben, je vais recevoir l'espérance. C'est ça qui est fou. Ça veut dire que nous, en tant que parents, si on est parents, si on encourage la maîtresse en disant « Allez-y, on est tout cœur avec vous », elle va peut-être, grâce à nous, avoir son espérance qui va grandir dans cette période où peut-être qu'au départ, elle se demandait comment elle allait s'en sortir. Et les fils d'Israël, eux, ils avaient de la lumière où ils habitaient. Et ils étaient les seuls, premièrement, à se lever de leur place, c'est-à-dire à continuer à agir, à continuer à faire des choses. Alors que les Égyptiens, ils disaient « on ne peut plus rien faire parce qu'on est trop désespérés ». Et la deuxième chose, ils étaient les seuls à voir leurs frères et sœurs. Et ça, c'est un autre signe des temps, je pense, il faudrait faire une conférence dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est le fait de se dresser royaume contre royaume et nation contre nation. C'est une période où les ténèbres font qu'on est tenté de désespérer, d'avoir une ténèbre dans le cœur, et de voir tout de manière ténébreuse, et de croire que les autres sont ténébreux, et de les soupçonner de malveillance, quoi qu'il arrive. Et dans cette période, en fait, il semble que seuls les Hébreux avaient cette capacité de continuer à faire confiance, à dire « Non, je vais penser du bien des autres, je vais m'émerveiller, en fait. » Et ils ont reçu de la part des Égyptiens une confiance, du coup, en échange. On vous confie nos objets, tous nos objets précieux, les fourrures, les étoffes, les bagues, l'argent, les rubis. La plaie des ténèbres, ça va être un temps où ceux qui se battent pour garder l'espérance et pour continuer à faire des choses pour leurs enfants, pour Dieu, pour leur travail, à mener des projets, en faisant comme si les montagnes ne dansaient pas, et en se disant les montagnes, mes montagnes à moi, c'est ma relation aux autres et à Dieu, c'est ça mes montagnes qui restent fixes, alors que les lois changent et puis peu importe, eh bien vont absorber toutes les grâces, enfin vont continuer, comme pour les autres plaies, à absorber les grâces de ceux qui ne s'en servent pas. Et qui peut-être d'ailleurs, à un moment, vont avoir l'âme qui s'ouvre, et puis on va pouvoir leur rendre des grâces qu'ils vont nous demander, parce qu'ils vont nous demander une explication, puisqu'ils vont prendre un peu de temps avec nous, parce qu'ils vont nous accompagner dans un temps de prière ou autre. Il faut garder, je dirais, la foi dans le fait que nos frères et sœurs vont sans doute, à un moment, revenir, quoi. La dernière plaie, la dixième plaie, je pense que c'est la tentation de dire que Dieu ne mérite pas qu'on le craigne, vu tous les fléaux d'ailleurs. Ça correspond à la mort des premiers-nés. Les premiers-nés, ça va représenter à la fois toutes les œuvres des Égyptiens, mais quelle est l'œuvre la plus parfaite que peut faire un être humain? C'est ses enfants. Que se passe-t-il quand on ne craint pas Dieu? Quand on dit, après tout, je fais comme si Dieu n'existait pas? Eh bien, on va engendrer des enfants qui vont être voués à la seconde mort, c'est-à-dire qui vont être comme nous, qui risquent de devenir rebelles, délinquants, qui ne veulent pas se soumettre à l'autorité, qui ne vont pas trouver un chemin de vie, et il y a un fort risque qu'ils, en fait, en s'éloignant de Dieu, ils n'arrivent pas à avoir la vraie vie, quoi, et au moment de leur mort, à choisir Dieu, parce que on va pas leur parler de Dieu, et ne pas parler de Dieu, c'est forcément plus risqué pour la vie de l'âme de la personne qu'on engendre, en fait. C'est ça qui représente la mort des premiers-nés. Même si je ne dis pas que tous les athées, enfin après, il y a les chemins du Seigneur, mais le fait que les athées, les agnostiques, ou les gens qui s'éloignent de la foi, je pense, soient tentés d'avoir moins d'enfants, moi, il m'a semblé que c'était une forme de miséricorde du Seigneur, parce que engendrer des enfants à qui on ne transmet pas une vie intérieure, c'est risqué pour le salut de leur âme, en fait. Ils vont avoir moins de chance que dans une famille où on croit en Dieu et qu'on dit « mais fais confiance, t'inquiète pas, pardonne,
voit les autres de manière toujours positive, quoi. Et de ce fait, c'est comme si les gens qui craignent Dieu étaient de la même chair que Dieu, du même sang, et que le Seigneur, vous voyez, que comme si on était le même organisme avec Dieu, en fait. Là, j'anticipe un peu ce que va faire le Christ, bien sûr, mais... Et donc, quel va être le don lié à cette plaie? Ça va être le sang. C'est-à-dire, vous allez mettre du sang sur les linteaux des portes, sur les montants, et le fléau ne vous atteindra pas. Une préfiguration du sang du Christ, bien sûr. Et c'est une manière aussi de nous, je pense, nous enlever encore une partie de l'angoisse, parce qu'à chaque plaie, normalement, on est censé, quand on la comprend, perdre une partie de notre angoisse. Dire, ah ben non, là, je suis un peu moins angoissé. Et pourquoi celle-là est censée faire diminuer notre angoisse? Parce que le sang, c'est ce qui rachète. C'est-à-dire que les Hébreux, ils n'étaient pas parfaits. Mais ils ont mis du sang, et du coup, le fléau ne les a pas atteints. C'est-à-dire que leurs œuvres n'ont pas fait de mauvaises œuvres, ou leurs œuvres ont été purifiées. Et la chose suprême, c'est que leurs enfants ont été préservés d'un certain nombre de mauvaises choses. Et le sang du Christ, c'est quelque chose qui est censé nous rassurer, nous qui connaissons le sang du Christ, parce que ça va compléter des imperfections de notre vie. J'ai dit des choses qui étaient déplacées. Seigneur, viens recouvrir de ton sang précieux ce que j'ai dit. Là, le corps, l'âme et l'esprit de mes interlocuteurs, pour que je dirais que les choses inexactes qui peut-être les ont angoissées ou autres, les ont perdues, s'évanouissent et n'aient pas de mauvais fruits. Vous voyez, le sang, on peut recouvrir du sang tout ce qu'on veut. Je suis allé chez le dentiste hier et j'ai repensé à ça parce que j'avais entendu quelqu'un qui disait « Eh ben, demandez au Seigneur de recouvrir du sang précieux quand vous avez fait un bon repas pour compléter le repas et que tout ce qui a été mangé remonte vers Dieu, que ce soit un sacrifice de louange à Dieu. » Et il y a une personne qui disait « Moi, depuis que je fais ça, j'ai plus de caries. » Enfin, je continue à me brosser les dents, je continue... Mais Dieu voulait me dire que en faisant de ma vie un sacrifice, y compris pendant les repas, au lieu de manger un peu trop en pensant à moi et en disant « Ah, c'est vachement bon !» voilà. Eh ben, je vais compléter mon repas en disant au Seigneur, viens faire remonter au Père pour que mon repas ne porte que des bons fruits. Et je trouvais ça beau comme témoignage, ça donne envie de faire pareil. Donc, le sang. Nous allons quitter le livre de l'Exode pour montrer un autre texte qui fait écho à cette réalité, puisque ces étapes sont racontées sous une autre forme dans le livre de l'Apocalypse. Ce sont les sept trompettes. Et les sept trompettes et les sept coupes, je pense. Alors, les sept trompettes, on les trouve au chapitre 8 de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse. Et je pense que les trompettes désignent les premières plaies, celles qui visent à purifier, du coup, les chrétiens, qui correspondent comme les premières plaies d'Égypte, qui vont frapper à la fois les élus, et enfin, pas les, je ne devrais pas dire les élus, mais les gens qui sont dans le peuple de Dieu au début des plaies, et les gens des nations païennes. Et qui les fait sortir de Babylone, qui les fait quitter les mauvaises habitudes qui leur restent dans leur vie, et qui vont secouer le reste de l'humanité. Alors, à l'inverse, les sept coupes, qui sont au chapitre 16 de l'Apocalypse, correspondraient plutôt aux dernières plaies, et qui n'attendraient que les personnes hors de l'Église. Je prends l'Église dans un sens large, c'est-à-dire les personnes non unies à Dieu, parce que je pense que Dieu ne tarit pas de ressources pour qu'il y ait quand même des gens unis à lui, même dans des lieux où on penserait que tout le monde serait perdu, quoi. Et moi, il me semble que l'angoisse va être particulièrement manifestée dans la cinquième trompette. Alors les trompettes et les coupes vont pouvoir s'interpréter de plusieurs manières complémentaires, et une manière... ça va être l'angoisse, je pense. Donc je vous lis. Le cinquième ange fit sonner sa trompette. Je vis une étoile précipitée du ciel sur la terre. Il lui fut donné la clé du puits de l'abîme. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Il en monta une fumée comme celle d'une grande fournaise. Donc je reviens à l'interprétation. Le péché généralisé va provoquer la tombée de cette étoile enflammée. Quelle, à mon sens, cette étoile enflammée, c'est le mensonge qui va attaquer le cœur des dirigeants. Les dirigeants qui ne sont plus assez protégés par leurs sujets, qui ne prient plus assez pour eux. Parce que l'Église aujourd'hui, c'est, par exemple, c'est ternie. Un certain nombre de personnes ne sont plus en communion, plus suffisamment, ou ratent des... Pour nous catholiques, vont rater des messes dominicales, vont, vont laisser libre cours à certains péchés qui vont être banalisés d'ailleurs. Donc voilà, cette étoile enflammée, c'est la colère. Et ensuite, ça va répandre des rumeurs de guerre. Moi, ce que je vois comme l'ouverture du puits avec la fumée qui se répand partout, c'est une angoisse, cette fumée qui s'infiltre un peu partout. Le soleil est obscurci ainsi que l'air. D'après moi, c'est la vérité qui devient plus difficile à trouver parce que le mensonge est devenu omniprésent. Je pense par exemple au slogan des médias. Le slogan des médias qui va s'infiltrer partout et qui prend toute la place. Donc les sujets Covid, pour parler de cela, à chaque fois qu'on en parle, ça prend tellement de place qu'on parle que de ça et ça devient le sujet, quoi. Moi, je le vois comme une fumée. Et quand on en parle, en plus, ça angoisse tout le monde. C'est-à-dire qu'on pourrait en parler en disant ça va mieux, vous trouvez pas. Mais en fait, quand on parle du Covid, la plupart du temps, c'est pour monter d'un cran dans l'angoisse de tous ceux qui sont là. Enfin, c'est un constat que je fais, je suis étonné, je m'émerveille parce que je trouve qu'il y a un côté complètement nouveau dans cette chose-là. Et de cette fumée, des sauterelles qui se répandent sur la terre, il leur est donné un pouvoir pareil à celui des scorpions de la terre. Il leur fut défendu de faire aucun tort à l'herbe de la terre, à ce qui verdoie, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui ne portent pas sur le front le sceau de Dieu. Donc le sceau de Dieu, j'avais dit, je pense que c'est ceux qui vivent d'une manière juste, qui font avec zèle leur devoir d'État. Et c'est pourquoi il me semble que cette angoisse va frapper dans tous les milieux. Il y a des personnes qui sont plus sujettes à l'angoisse, d'autres qui sont moins sujettes à l'angoisse, parce qu'ils essaient d'être justes dans tout ce qu'ils font et de ne pas vivre de manière trop matérialiste. Je pense que ça peut être une clé aussi pour... parce que une des vertus de l'angoisse va être, je pense, de nous aider à nous débarrasser de nos attaches, en fait. Donc de nos objets matériels, de nos petites habitudes, etc. Il leur fut permis non de les faire mourir, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elle cause est celui de l'homme que blesse un scorpion, etc. Bon, donc on voit que l'angoisse, c'est vraiment quelque chose qui atteint le centre de l'âme. Je passe à la dernière partie, grande partie, les mécanismes de l'angoisse. Qu'est-ce que l'angoisse? Je vais parler d'abord très rapidement de l'angoisse d'un point de vue de ce que j'ai trouvé sur Internet sur le sujet. Alors, apparemment, c'est différent du stress parce que c'est pas forcément lié à un événement particulier. Le lien entre le stress et l'angoisse, c'est que souvent le stress, c'est je vais vivre quelque chose tout à l'heure, ça me stresse un peu. Mais l'angoisse, évidemment, certains événements vont faire du stress et de l'angoisse, vont provoquer stress et angoisse, mais ça peut être aussi déconnecté. Il y a un côté beaucoup plus irrationnel. Donc, à l'origine, l'angoisse est physiologique, c'est-à-dire que ça touche l'activité du corps humain. Elle se manifeste par des réactions au niveau du corps, avec notamment une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la température, des sueurs, des maux de ventre, voire des attaques de panique. Et ça finit par envoyer au cerveau un message, le message qu'il y a un danger imminent. Il y a un danger imminent, il y a un danger imminent. Même si ce danger n'est pas forcément réel. Et en réponse, le cerveau va produire du cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress, quelque chose qui au départ est bon, c'est une forme de protection donnée par Dieu, et aussi de l'adrénaline, qui va nous fortifier normalement pour un passage où on est censé être plus vif pour réagir face à un danger. Et en fait, on va voir progressivement, à cause de cet excès, le monde avec des lunettes noires. C'est-à-dire que cette sursollicitation du cerveau va faire que ça va perturber notre équilibre hormonal. Et petit à petit, on va avoir une tendance à voir le monde avec des lunettes noires. C'est une sursollicitation, en fait. Et c'est un dérèglement physique qui se met en place également, avant la déstabilisation émotionnelle. Du coup, c'est vrai que si on diffuse des messages anxiogènes, par exemple, il y a des études qui montrent ça, qu'on diminue de 50% le système immunitaire des gens. Donc si on va voir nos enfants et que régulièrement on leur raconte des histoires horribles et on leur dit que on maintient une ambiance angoissante à la maison, on risque d'avoir des enfants beaucoup plus malades. Et si un État décide, donc j'ai pas du tout d'exemple en tête, mais un État décidait de diffuser des messages angoissants au lieu d'être rassurant,
eh bien, il diminuerait l'immunité d'office d'une bonne partie de sa population. Enfin, ceux qui se laisseraient vaincre par l'angoisse. Que dit la Bible sur l'angoisse ? Dans le livre de la Sagesse, au chapitre 17, verset 12, « La peur n'est rien d'autre que l'abandon des secours de la raison. Moins on espère intérieurement de cette aide, plus on ressent l'ignorance de ce qui provoque le tourment. » Donc l'angoisse, c'est un corollaire d'un manque de foi, comme on l'a dit. Quand ma foi diminue, je suis tenté d'arrêter de réfléchir à ce qui est stable, ce qui est sûr, ce qui d'habitude est digne de confiance, et qui fait que je cède à l'angoisse. Et quand je me remets à croire, l'angoisse s'atténue et disparaît. Je me remets à me dire, mais en fait, là, d'habitude, il y a ça et ça qui me rassure, mais ces éléments sont toujours là. Pourquoi est-ce que j'angoisse ? L'angoisse est en lien avec l'abandon des secours de la raison. C'est ce que dit la Bible. J'arrête de raisonner et de m'appuyer sur la tête que Dieu m'a donnée et je me laisse aller à une divagation qui est déconnectée du réel. Dans l'angoisse, il y a aussi une forme de trahison. Je vais voir une personne qui va me dire quelque chose et ensuite, quand je la quitte, je vais me rappeler ce que la personne a dit et je vais me dire, mais c'est angoissant ce que la personne a dit. Et pourquoi il me semble que c'est une trahison ? Parce que quand on a une relation avec l'autre et qu'on fait confiance, on se dit, en définitive, si ça m'angoisse, c'est que je fais pas assez confiance à la personne. La personne, elle m'aurait pas dit quelque chose d'angoissant. Ou si ça m'angoisse, peut-être que je peux retourner la voir pour lui demander. Mais en tout état de cause, cette personne est bienveillante. Il n'y a pas de raison d'être angoissé. Mon chef, j'ai vu qu'il a cherché à me joindre, mais et j'ai une angoisse parce qu'il va peut-être me réprimander ou je ne sais pas quoi. Mais non, mon chef n'est-il pas quelqu'un de bien intentionné ? Est-ce que cette idée n'est pas une idée fausse, finalement ? Est-ce que c'est pas quelque chose qui me tente, mais qui n'est pas la réalité ? Et donc, en raisonnant, en me disant, je connais la personne, et d'ailleurs, je vais proclamer que cette personne est une personne digne de confiance et gentille, même si c'est pas tout à fait le cas, parce que nul n'est parfait, eh bien, l'angoisse, elle va disparaître. C'est une réalité qui va s'estomper et disparaître. Enfin, qui va disparaître, bien sûr. Après, il y a des blessures qui font qu'il faille plus de travail pour vaincre l'angoisse, bien sûr. Alors, je prends l'exemple d'Akaz au chapitre 7 d'Isaïe, le roi Akaz. Un texte qu'on lit plusieurs fois dans l'année, lors des messes. Au jour d'Akaz, fils de Yotam, fils d'Ozias, roi de Juda, Récine, roi d'Aram, et Péka, fils de Remaliaou, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ne purent lui donner l'assaut. On annonça à la maison de David, Aram a pris position en Éphraïm. Alors son cœur et le cœur de tout son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Le Seigneur dit à Isaïe, « Sors à la rencontre d'Akaz, toi et ton fils, Shéar-Yahouv, vers l'extrémité du canal du réservoir supérieur, vers le chaussée du champ du Foulon. Tu lui diras, « Veille à rester calme, ne crains pas, que ton cœur ne défaille pas à cause de ce deux bouts de tison fumant, sous l'effet de l'ardente colère de Récine, d'Aram et du fils de Remaliaou. Puisqu'Aram, avec Éphraïm et le fils de Remaliaou, a résolu ta perte en disant, « Montons contre Juda pour l'effrayer, pénétrons chez lui pour l'amener à nous, et installons-y comme roi le fils de Tavéel. » Ainsi parle le Seigneur Dieu, « Cela ne tiendra pas, cela ne sera pas, car la tête d'Aram c'est Damas, et la tête de Damas c'est Récine. Encore 65 années, Éphraïm écrasé cessera d'être un peuple. La tête d'Éphraïm c'est Samarie, et la tête de Samarie c'est le fils de Remaliaou. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Ce texte, il me semble, montre le mécanisme spirituel de l'angoisse. Il y a premièrement cette nouvelle angoissante, car généralement, ça contient une exagération. Il y a deux rois qui s'apprêtent à t'attaquer, et qui ont l'air très en colère d'ailleurs. Je les ai vus, ils fulminaient. Donc il y a une forme, l'exagération c'est déjà un mensonge, parce qu'on dit une réalité qui n'est pas tout à fait vraie, et avec le téléphone arabe, ça risque de créer quelque chose de qui peut être angoissant et qui a vraiment l'air vrai. Deuxièmement, il y a cette amplification, c'est la rumeur de guerre. Ça va être à l'échelle d'un individu ou d'un pays. On parle en boucle d'un sujet qui n'est pas encore actuel, comme s'il était réel, et on lui donne une réalité. Troisièmement, Ce faisant, on évacue de notre cœur les éléments qui d'habitude nous donnent de l'assurance, et on fait entrer un ennemi dans notre cœur. Et ici, c'est le fils de Tavéel. Et quand on est angoissé, il y a un élément de base, c'est « Seigneur, je brise contre ta croix le fils de Tavéel que j'ai dans le cœur ». C'est très simple et ça marche très bien, cette prière-là, dans Ésaïe 7. Et quatrième étape, désormais, à chaque fois qu'une information bonne ou mauvaise nous parvient, au lieu de la confronter avec ce qui nous permet d'habitude de discerner, c'est-à-dire notre vécu, la confiance dans la vie des autres, le discernement de l'Église, les infos m'arrivent et je vais les confronter avec ces éléments stables et sûrs que je connais, au lieu d'être assuré, on va le donner au fils de Tavéel qui a fait sa maison en nous, et qui va y goûter, et qui va déclarer « Ah, cette nouvelle est angoissante ». Voilà, on a un compagnon qui nous tient compagnie, et tout ce qu'il goûte, il va dire « Ah, c'est angoissant ». Et puis, quelqu'un va nous dire qu'il se rassure, ah non, ça c'est angoissant, et puis ça va nous faire angoisser encore plus. Et dans la Bible, l'ennemi spécialiste de l'angoisse, c'est, d'après moi, le royaume de l'Assyrie, A-2-S-Y-R-I-E. Ils ont une capacité prodigieuse à provoquer l'angoisse. Et ils ont toujours la même méthode, d'ailleurs. C'est premièrement, en fait, un langage trompeur. Deuxièmement, et donc les deux premières étapes sont concomitantes, hein. C'est un déferlement. Le fait de nous assiéger et de tout faire pour nous montrer leur force en disant que notre seule option, c'est de leur faire confiance. C'est-à-dire de nous présenter une situation comme si elle était insurmontable, comme si on avait déjà perdu d'avance. Les médias d'aujourd'hui sont très forts pour retourner la situation et que les 10 arguments qu'ils vont donner montrent qu'il n'y a rien à espérer comme amélioration, quoi. Et ensuite, donc, ils nous font tomber dans ce piège où on met en place des sécurités humaines. On invite le fils de Tavéel en nous, au lieu de mettre notre sécurité en Dieu. Ainsi, en fait, on va souvent réagir vite en disant le gouvernement a fait une nouvelle loi ou un nouveau projet de texte, etc. Et on croit qu'il faut trouver une solution tout de suite. Et je pense que c'est un des pièges, c'est que souvent, ça vaut le coup quand il y a des choses pour lesquels on n'est pas tout à fait en paix, d'attendre le plus possible à quelques jours de la dernière extrémité, parce que là, on aura fait du chemin, la situation aura changé, il n'y aura peut-être même plus de problème, le Seigneur nous aura déjà présenté la solution, quoi. Bon, comment briser ce cercle de l'angoisse et de traverser victorieusement cette période ? Dernière petite partie, j'en ai parlé tout du long. Je pensais, premièrement, Saint-Michel. Dans Daniel 12, il est dit « En ce temps-là se dressera Michel le grand prince ». C'est vrai que la petite prière à Saint-Michel de Léon XIII, elle est intéressante. Il y en a plein d'autres, des dévotions à Saint-Michel ou simplement l'invoquer. Il y a le fait de s'évertuer à la foi et à l'espérance en disant « Seigneur, donne-moi la foi, Seigneur, donne-moi l'espérance ». Donc la foi, ça va être le « Je crois en Dieu », ça va être un certain nombre de prières pour la foi. L'espérance, ça va être, j'avais dit donc, d'agir comme s'il n'y avait pas les montagnes qui dansaient, en disant, bah, après tout, si mon projet s'écroule, tant pis, mais au moins j'espère, je fais comme si ça allait déboucher. Et en plus, mon projet, comme ça sera un des rares projets qui va voir le jour, a priori, mon projet, il va peut-être briller par rapport à d'autres personnes qui n'auront rien fait. Il y a évidemment pratiquer les vertus, lire la parole de Dieu, vivre les sacrements, etc. Devant une angoisse, faire l'acte de foi de dire « Cela n'a aucun sens ». Ça, on trouve ça dans Néhémie. Il y a des personnes qui lui envoient des messages pour dire « Arrête de rebâtir la muraille » avec plein de raisons scabreuses. Et lui, il dit « Ce que vous dites n'a aucun sens ». Je suis tenté par l'angoisse. J'imagine que mon agent de police, par exemple, va me verbaliser parce que peut-être que ma voiture, j'ai dépassé de 10 minutes le stationnement. « Seigneur, cela n'a aucun sens. Les agents de police sont des gens gentils. » Et j'ai payé, et j'ai juste dépassé 10 minutes, mais je m'efforce d'être court. Voilà, le Seigneur m'aide à briser l'angoisse. Donc il y a vivre dans le présent, il y a lire de manière régulière la parole de Dieu, donc j'ai plusieurs références de textes. J'ai par exemple Josué chapitre 8, Isaïe chapitre 7, j'ai Isaïe 10, verset 5 à 34, Isaïe 10, 5 à 34. Isaïe 14, versets 24 à 27. Une que j'aime beaucoup, c'est Isaïe 37, 21 à 38. Isaïe 37, 21 à 38. Et celle-là, elle est deux fois dans la Bible d'ailleurs. Elle est aussi dans le deuxième livre des Rois au chapitre 19. Nahum, le prophète Nahum, c'est un tout petit livre qui se lit en quelques minutes. Le livre de Néhémie, au chapitre 3 et 6, c'est ceux qui rebâtissent la muraille et qui font un bras de fer avec ceux qui veulent les empêcher de rebâtir la muraille, qui donnent des messages angoissants. Et puis on a les psaumes, bien sûr, le chant en langue. Je vous ai donné ces textes-là, la plupart, c'est l'Assyrie. En fait, c'est des prières d'imprécation contre l'Assyrie. C'est des prières un peu musclées, mais ça fait du bien. C'est-à-dire qu'on va, dire, ainsi parle le Seigneur, au sujet du roi d'Assyrie, il n'entrera pas dans cette ville. Et il n'y lancera pas de flèche. Le chemin qu'il a pris, il le reprendra. C'est des choses qui, en fait, spirituellement, ça dit, il restera à la porte de mon cœur, il arrêtera de pénétrer pour me faire des injections d'angoisse. Et quand on proclame ces paroles-là, il faut toujours penser, évidemment, qu'on proclame ça contre les esprits du mal, pas contre des gens réels, même si on a très envie parfois, c'est toujours contre les esprits du mal, c'est eux les ennemis. Hein. Quand on est très tenté par l'angoisse, moi en tout cas je conseille d'en faire une tous les jours, au moins, une prière contre l'angoisse, en notre période c'est nécessaire. Et quand on est très tenté par l'angoisse, ça peut être toutes les heures, on lit un texte contre l'angoisse. Et vous verrez qu'au bout de 3 ou 4, l'angoisse ne tient pas. Et puis il y a les prières au sang du Christ, les chapelets de la Divine Miséricorde. Il y a un livret que je recommande, c'est celui-là. Je pense qu'en ces temps, ce livret-là, moi c'est une des... ça s'appelle « Dévotion au très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ ». Alors ça fait peur, hein. Évidemment, il saigne Jésus sur la couverture. C'est une association qui s'appelle « L'Appel du Ciel ». On trouve ça sur Internet. Et donc c'est un petit livret, ça coûte 7 euros, plus 1 euro avec les frais de port, enfin quand on en commande plusieurs. Pourquoi il est intéressant? Parce que c'est des prières au sang précieux. Je parlais de la vertu du sang qui va purifier et compléter toutes nos actions. À chaque fois qu'on fait quelque chose et on se dit, ça risque d'être imparfait. Seigneur, viens, scellez de ton sang précieux ce que j'ai fait. Et on peut aussi, si on rencontre certaines difficultés, dire, Seigneur, viens recouvrir de ton sang précieux les raisons pour lesquelles j'ai telle difficulté. C'est-à-dire que je vais commettre un péché qui va faire que ces difficultés-là vont m'arriver dessus de manière régulière, comme un petit avertissement que le Seigneur me donne de moins commettre ce péché-là. Eh bien, Seigneur, viens recouvrir de ton sang précieux, c'est-à-dire viens pardonner, ce qui fait que d'habitude, je suis frappé par le bâton, je suis rattrapé par la patrouille, quoi. Le Seigneur va faire miséricorde, parce qu'il est touché qu'on se serve de son sang. Et puis, dernier élément qui me paraît intéressant, c'est d'utiliser les portes du temps. Qu'est-ce que les portes du temps? En bref, ça va être le fait qu'il y a des moments, il y a des portes du temps que nous contrôlons parce que c'est des moments stratégiques de notre journée. Ça va être la première pensée au réveil, la dernière pensée avant de dormir. Ça va être le moment où je passe d'une activité à l'autre. Ce sont des portes, c'est-à-dire que c'est des moments stratégiques où quand j'ai une pensée pour Dieu, une pensée vraiment profonde, un signe de croix, un je t'aime, un Notre Père ou une autre prière en fonction de l'inspiration, ou comme ce paysage est beau, merci Seigneur, eh bien, ça va faire rentrer le Seigneur avec puissance dans les moments entre deux portes. C'est-à-dire entre le moment, par exemple, de mon réveil et le moment où je vais enchaîner d'une activité à l'autre. Entre ces deux portes-là, ça va faire comme une fumée qui remplit mon temple intérieur et qui va rendre le Seigneur plus fort entre ces deux moments-là. Et ça vaut le coup de bien contrôler ces portes-là. Par exemple, la tentation au réveil de dire « Ah, j'ai pas envie de me lever », et ben on la contrecarre en disant « Seigneur, merci pour cette journée, je m'oblige à dire merci, même si j'ai pas envie, parce que mon lit, il est chaud, et dehors, il fait froid, il fait humide, et il pleut. Et... » Mais, je fais cet acte de foi-là, et en faisant ça, en fait, je vais utiliser une porte du temps qui va me rendre plus facile de vaincre les angoisses pendant les quelques heures qui vont suivre, et même pendant ma journée. Ça, c'est les portes variables dans notre journée. Et puis, vous avez des portes fixes qui vont être... Par exemple, des portes annuelles comme le Vendredi Saint, où l'Église demande de jeûner. Par exemple, le Vendredi, où l'Église dit c'est un moment où on fait mémoire, même pendant toute l'année, de la Passion de Jésus, où on va essayer d'être un peu plus sobre, au moins de penser à Jésus. Surtout pendant le carême, d'ailleurs.
ça, c'est des portes de l'année. Utiliser les portes de l'année, hein. Utiliser les portes de la semaine. Donc, il y a deux portes majeures, je pense, et ça, c'est ce livre-là qui l'apprend. Ça va être le jeudi soir, entre 23h et vendredi 3h du matin. C'est un moment particulier où celui qui a reçu ces prières-là, qui est un mystique, c'est un Africain, il s'appelle Barnabas. Donc, c'est reconnu par l'autorité d'église, hein, par Monseigneur Adeyobi, l'évêque de Barnabas. Donc, il dit que le jeudi 23h jusqu'à vendredi 3h du matin, c'est un moment où c'est comme s'il y a une porte qui s'ouvrait pour assister le Christ à Gethsemane. C'est un moment où c'est comme si on était présent à côté de Jésus pour pouvoir le consoler ou pour pouvoir l'alourdir encore plus parce que je regarde toute une série pendant 4 heures sans penser du tout à Dieu, quoi. Voilà. Vous voyez, on a cette capacité de pouvoir simplement d'être compatissant vis-à-vis de lui. Idéalement, Barnabas dit de prendre au moins une heure de prière pendant ces 4 heures-là, par exemple entre 23h et minuit, donc ce qui rejoint l'heure de présence, qu'est-ce qu'elle a reçu ça, Marguerite Marie, je crois, ou... Jésus dit que quand on arrive à s'unir à lui pendant une heure, pendant ces 4 heures-là, toutes les semaines, le Seigneur va nous marquer de son sceau. C'est un des trucs qui fait qu'on a une assurance, mais vraiment surnaturelle, qui fait qu'on n'est plus angoissé, quoi. L'angoisse reste à l'extérieur de notre cœur. Une deuxième porte de la semaine, ça va être le vendredi entre midi et 15h. C'est le moment où Jésus était en croix, où le soleil s'est obscurci. Donc un temps de ténèbres, un peu comparable à celui de Gethsemane, où il demandait à Pierre, Jacques et Jean de prier avec lui. Et donc dans ce temps de ténèbres, ce qui est demandé, c'est de s'unir à Jésus. Pour ceux qui le peuvent, de jeûner bien sûr, mais sinon ça peut être simplement, je travaille et j'ai une petite pensée pour toi Jésus, je suis désolé que tu sois en croix, que tu souffres autant, que autant de gens t'insultent. Donc ça c'est quelques portes de la semaine. Une autre porte de la semaine, bien sûr, ça va être le respect d'un jour saint pour le Seigneur. Un jour où on va vraiment diminuer le rythme. Donc ça va être soit le samedi, jour du sabbat en union avec les juifs, soit le dimanche, jour du Seigneur avec la messe. Le Seigneur demande qu'il y ait une journée où on soit en off et où on lise sa parole, où on fasse des choses, je dirais, plus en lien avec le repos, pour pouvoir le laisser agir et donner un vrai souffle à tout le reste de notre semaine, en fait. Dieu va accomplir tout ce qui s'est passé et nous donner la force pour tout le reste de la semaine. Ça, c'est les portes de la semaine. Il y en a d'autres, mais bon. Et les portes de la journée, ça va être toutes les 3 heures. Il y a des portes fixes, si vous voulez faire l'expérience. Ça va être minuit, 3 heures, 6 heures, 9 heures, etc. Et à chaque... toutes les 3 heures, en fait, il va y avoir un... Si jamais on arrive à faire au moins une petite minute d'horizon sur le changement d'heure, par exemple entre 59 et l'heure ou à l'heure pile, on va avoir une grâce particulière pour remplir de fumée les 3 heures qui viennent. C'est-à-dire pour que le Seigneur soit plus fort pendant ces 3 heures-là. Et on ait un coup d'avance spirituel. Voilà, c'est très simple, en fait, hein. Donc ceux qui connaissent Luisa Picaretta connaissent peut-être... les 24 heures de la Passion, où en fait c'est même à chaque heure que les personnes vont faire ce petit exercice de dire tiens, je pense à toi Jésus, parce que là c'était l'heure où tu as vécu ça, où tu as été crucifié. Donc ça, toutes ces choses-là se rejoignent. Ça, c'est les portes du temps. C'est-à-dire, je vais utiliser mon temps de manière stratégique. Mes collègues, ils vont peut-être souffrir que pendant une minute, par exemple, j'arrête de pianoter sur mon ordi et puis je prends un petit temps comme si je réfléchissais pour penser à Jésus. Voilà. Et c'est d'une simplicité déconcertante, en même temps c'est exigeant, mais en même temps ça donne une vraie assise qui aide à lutter contre l'angoisse. Je vais répondre à une des questions que vous m'avez posées. C'est pourquoi n'as-tu pas été plus précis sur ce que veut dire la rumeur de guerre en lien avec notre période d'aujourd'hui? Eh bien, pour la période d'aujourd'hui, comme je vous le disais, nous sommes refroidis, les chrétiens et puis les autres, nous ne protégeons plus suffisamment nos dirigeants, la population, les lois, etc. Nos dirigeants sont tentés par le mensonge, et le mensonge d'aujourd'hui, moi il me semble, c'est de dire que on a affaire à un virus qui est un corona, donc à la fois dans une famille de virus connus, et à la fois que c'est un virus complètement différent.
Il aurait été fait en labo, peut-être, on ne sait pas trop. Et comme il est différent, on va interdire aux médecins d'utiliser les médicaments qu'ils avaient l'habitude d'utiliser depuis des années et des années, des médicaments reconnus pour leur efficacité et pour leur prix plutôt bas. On va faire un certain nombre de mesures comme des confinements, faire porter le masque à des gens bien portants, envoyer des messages anxiogènes toute la journée, des choses en fait qui avaient été complètement déconseillées par les épidémiologistes de renom. Et on va imposer des traitements, un médicament unique, ce qu'on ne voyait jamais, hein, habituellement, c'était pas un médicament unique qu'on imposait, un médicament nouveau et dont l'efficacité est extrêmement contestable. En somme, en fait, on va faire de l'ingérence dans les métiers des médecins, des épidémiologues et de plein d'autres membres de la population qui habituellement étaient des piliers, c'est-à-dire que c'était eux qui étaient les spécialistes pour enrayer ce genre de difficulté de rencontrer des nouveaux virus. D'un coup, on dit, eh ben, il faut plus les écouter. Voilà. Donc on voit bien que petit à petit, l'angoisse s'installe, puis la population se divise, et pour moi, le lien, la rumeur de guerre d'aujourd'hui, c'est ça, ce sont ces choses spectaculaires, ces mesures après mesures qui sont prises pour continuer à donner lieu, à donner vie, en fait, à un mensonge, à donner une consistance, alors que, en voyant les choses autrement, même si, effectivement, il y a de la souffrance, il y a des personnes qui ont des symptômes, il y a des personnes qui meurent, et ça, c'est un fait, mais habituellement, on raisonne, et on va voir le médecin, et on dit, d'après vous, que faut-il faire? Et on ne le prive pas de ses moyens, quoi. Voilà. Je renvoie notamment à Doctoton, D-O-C-T-O-T-H-O-N. Ce sont des personnels soignants et personnels de santé qui en ont parlé bien mieux que moi et qui témoignent de la manière dont ils vivent cette période. On trouve ça sur Internet. Voilà, j'ai fini. Merci pour votre attention.